Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans ce nouveau numéro de Un coin de pixel avec nos amis Sébastien.
Bonjour.
Bonjour Sébastien, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu.
Ça fait un petit moment en effet.
Je suis de retour.
Ouais, de retour
ça
pour
manquait
nous jouer
de blagues par ici.
De
donc
retour pour nous jouer des mauvais tours. Avec lui est accompagné Sam.
Salut à tous.
Sur sa gauche, je peux déjà voir le sourire de Greg.
Eh oui.
Bonjour Greg.
Bonjour à tous.
Et enfin pour finir, le rouquin qui pue, Sandro.
Bonjour.
Non, je rigole, les rouquins ne puent pas. C'est tout simplement une figure de
c'est
style.
Une légende. C'est une légende.
Je suis désolé. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler de plein de sujets tous aussi intéressants les uns que les autres. Nous allons commencer par une nouvelle rubrique. Enfin, une nouvelle rubrique. Nous avons décidé de sucrer la côte du coin aujourd'hui.
RIP.
RIP, oh, exactement.
Même pour toujours. Hein.
Pour toujours.
Ouais, on lui coupe la tête, c'est terminé. C'était trop mou, ça marchait pas.
Les gens n'appréciaient pas que c'était trop long. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler de à quoi on joue, mais aussi des nouvelles qui nous ont peut-être un petit peu titillé ces dernières semaines sur le marché du jeu vidéo. Mmh. Ensuite, nous allons enchaîner sur un immense thème dans l'analyse à coin. Aujourd'hui, on va parler du jeu de la génération. Donc, jeu de génération du cœur ou rationnel, comme nous a dit Greg. Mmh. Chacun a sa petite idée sur son jeu favori de cette génération. On va en débattre, on va en parler, ça va être sympa. Et enfin, pour finir, la rubrique que tout le monde attend, au coin du feu avec ses braises qui frétillent et qui crépitent.
Le mec qui se lance des fleurs.
Le mec qui se lance des fleurs, c'est Lord Bello qui va encore une fois vous parler de PVP, de loot sauvage, de meurtres affreux, de viols en ligne. Non, je rigole, ça va pas jusqu'ici. Enfin bref, on va de nouveau bien s'amuser au Moyen-Âge avec Lord
Bello.
Et Bello. Voilà,
Lord
sur ces douces paroles et ma diarrhée verbale, je laisse donc mes chroniqueurs.
Et là, mes voisins ont très peur, à mon avis.
Qu'est-ce qui se
oui,
passe?
Oui, faut noter qu'on a changé d'endroit d'enregistrement.
Voilà. Ouais, voilà, bienvenue à Aglun.
Bienvenue à Aglun. Aglun, patrie des Glindus. Donc, on va commencer. Alors, à quoi est-ce qu'on joue? À quoi est-ce qu'on joue?
C'est moi qui commence.
Ah, vas-y, le rouquin. Parle-moi.
Ok, alors moi, ces temps-ci, je joue pas mal.
Ah, oh.
Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le Zelda, que j'ai terminé.
Mmh. Sur 3DS, presque.
Sur 3DS, oui, le Zelda 3DS. Tearaway sur Vita, qui est assez mitigé, j'ai envie de dire.
Ah, mitigé.
Ouais, un peu mitigé.
J'ai commencé à y jouer aujourd'hui. Hein,
ça commence très fort. Et, enfin, j'en parlerai, je pense en faire quand même un article, mais je trouve que c'est... Je trouve que le gameplay n'est pas à la hauteur du reste, vraiment pas. Donc voilà. Surtout que bah, justement en parallèle, je joue à Super Mario 3D Land sur Wii U. Et bon, ben bah, là.
Monsieur s'est acheté
là,
une
c'est...
Wii U.
Oui.
Monsieur s'est acheté
c'est
une Wii U.
C'est un scandale. Celui qui crachait sur Nintendo toujours.
Bah, justement, je suis en pleine enquête sur Nintendo. C'est ce que je ne me serais pas trompé.
C'est pas plutôt une enquête sur toi-même
c'est... Bah, quelque part, oui. C'est
quelque part.
C'est beau ce que tu dis.
Il s'est dit qu'il avait envie de booster un petit peu les ventes
c'est
de
à
Nintendo.
À cause de Sonic qui est sorti sur Wii U.
Ah, merde, je suis repéré.
Je suis sûr que c'est ça.
Donc Sonic, tu vas y jouer.
Alors, j'attends, en fait, j'attends de voir parce que j'entends que c'est fantastique et j'entends que c'est de la merde. Et ceux qui disent c'est fantastique, c'est des gens qui adorent Mario. Et je voilà, c'est pas. Enfin, moi, je suis pas dans l'optique de dire le jour où Sonic ressemble à Mario, c'est que c'est un bon jeu. Je pensais plutôt l'inverse, en fait. C'est un peu comme dire, un peu comme si tu disais les sushis, c'est vachement bon parce que ça ressemble au kebab, en fait.
C'est profond,
tu vois.
Pour ça moi, parlera ça, beaucoup d'estomac.
C'est profond.
Ça me fait un peu cette sensation. Donc du coup, je vais attendre qu'il soit d'occasion et puis je verrai à ce moment-là.
Très bien, Sandro. Greg.
Alors,
quoi joues-tu?
Alors, pas très original, j'ai aussi fait Zelda, bouclé le Zelda sur 3DS, que j'ai trouvé brillant. Voilà, on y reviendra peut-être une autre fois à l'occasion. Et puis, j'ai fait quoi? Oui, bah, je me suis un peu étalé sur la démo de Bravely Default. C'est un scandale. On enregistre ce soir alors que je pourrais être en train de jouer.
Justement, j'ai envie de rentrer rapidement. Voilà. Si vous pouvez boucler ça.
On peut boucler
si
ça vite, voilà. Mais et puis un petit peu d'Itrian Odyssey, mais qui est vraiment là. Je suis. Alors, pourtant, j'ai l'impression d'être expérimenté au niveau des RPG Jap, mais là, j'ai l'impression d'être face à une sorte de mur de difficulté. J'ai pas les clés, je ne sais pas. Mais le jeu, j'adore. Et bon, comme j'ai eu le mauvais goût de le télécharger, et de l'acheter donc en démat, il va rester sur ma 3DS. Donc il va me narguer pendant à vita aeternam sur mon écran d'accueil. Donc il y a bien des chances que je m'y refroidisse à l'occasion.
C'est juste. C'est un bon jeu, hein, à côté de ça.
Excellent.
Moi, j'y joue, je le trouve sympa de temps en temps. Mais bon, Sam, à quoi joues-tu?
Avec plaisir. Ben, moi, j'ai toujours le même jeu que je parcours, que je fais de fond en comble grâce à Sandro depuis un petit moment. Dota 2.
Ah, oh, c'est juste j'ai oublié Dota 2, t'as raison.
Ouais, tu joues presque plus, hein. Oh, t'es vraiment devenu
alors,
un noob.
Ça, c'est par rapport à toi, je ne joue presque plus. C'est-à-dire, je joue, je pense, une dizaine de fois par mois.
Voilà.
Il joue en dilettante, lui.
Une fois ou deux par jour.
Ce qui représente quand même une dizaine d'heures.
Voilà.
Pour moi.
Mis à part ça, j'ai quand même essayé plein de choses ce mois-ci. J'ai essayé l'extension, la très bonne extension de XCOM Enemy Unknown qui s'appelle Enemy Within. Faut que je parle plus fort.
Oui, il faut que tu parles plus fort. J'essaie de te faire des gestes discrets.
Non, mais parce que
je vois sur l'ordinateur le trait qui est tout fin.
D'accord, d'accord.
Je me dis, les gens ils doivent rien entendre.
Donc le XCOM qui est très bien, je suis replongé avec grand plaisir. Le Zelda que j'ai bouclé aussi. Le Tearaway qui arrive gentiment au bout aussi. Comme toi, je suis partagé. Il y a des très bonnes choses, des moins bonnes. Bon, je pense qu'on en parlera sûrement une autre fois. Et j'oublie un truc.
Le Zelda, tu l'as dit ?
Le Zelda, j'ai dit. Bref, non, ça me reviendra peut-être plus tard. Dans une autre rubrique, si jamais je la sortirais comme ça. Très bien. Je passe la parole à mon voisin.
Alors, pour faire original, ben, je suis aussi sur le Zelda. Alors, j'ai nettement pas autant avancé que vous tous. Mais...
Quelle surprise ! Vous êtes payé par Nintendo !
C'est ça. Donc, j'ai récupéré mon deuxième sage. Donc,
bah bon, il a une excuse. Hein, il est papa.
Ouais, je suis papa. Donc, je joue avec mon fils aussi, mais c'est un autre genre de jeu. Et puis sinon, je joue à Drop 7 sur iPad, que je trouve vraiment cool.
Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est un jeu dans l'esprit un peu Tetris, où il faut empiler des choses et les faire éliminer. Donc voilà, qui est vraiment cool. Donc si vous avez un iPad ou un iPhone, je vous conseille d'essayer. C'est très... Tu deviens vite accro au jeu.
C'est bien.
Et voilà, c'est un peu tout pour l'instant.
Fais-nous rêver, Yannick. C'est toi qui as la...
rêver. C'est moi qui détiens la clé. Puisque j'ai acheté une PlayStation 4.
Mais oui, oh, il en a ça. Une.
Ouais, j'ai acheté une PlayStation 4 pour ne jouer à...
Pour 900 balles.
Rien. Non, je rigole. Je me suis acheté une PlayStation 4. Il est vrai que j'ai un petit peu joué au nouveau Killzone. Grosse déception. Mmh. Je tiens à le dire, grosse déception. Comme je disais...
Pourtant, ça a l'air super joli.
Mais c'est super joli, mais
bah
tu vois...
C'est pas ce que tu cherchais.
Mais non, mais moi, ce que j'ai... les Killzone, je les ai toujours aimés pour le mode multiplayer. Il y avait quelque chose, il y avait un grain, il y avait quelque chose qui faisait que... T'étais au cœur de l'action. Et là, il est tellement lisse, il est tellement tout ce que tu veux qu'au final, le meilleur côté du nouveau Killzone, c'est le single. Et c'est pas le multi. Donc voilà.
Et ça dure combien d'heures, juste pour rire ?
Écoute, je l'ai pas... Pour être honnête, j'ai joué un moment, mais au final, j'étais tellement déçu de mon expérience parce que je me suis dit, oh, je vais jouer en multi, ça va être trop cool, ça va être comme le 2. Et au final, c'était pas le cas, donc je l'ai un peu laissé de côté. J'ai pris le Battlefield aussi sur la PlayStation 4. Battlefield...
C'est beau,
c'est sympa, c'est en 60 FPS, donc voilà.
Faut dire que c'est pour Greg.
C'est quand même plaisant. Je vois les yeux de Greg effectivement
qui
s'allument.
Je
le titille.
Ouais.
Mais bon, au final, je joue beaucoup plus à ce jeu qui s'appelle War Thunder, qui est, je crois, un free-to-play sur PC.
Ouais.
Un peu à la sauce World of Tanks.
Ouais,
exactement. Mm-hmm.
Et c'est celui d'ailleurs qui a volé la priorité à. Parce qu'il y a World of Warplanes
World
en fait.
Warplanes.
Ils étaient censés continuer de bien faire, puis de faire plein d'argent comme World of Tanks. Ouais. Puis c'était un peu. À l'avenir, même les jeux devraient se combiner avec un jeu de bateau. Ouais. Et puis apparemment, ils se sont fait voler la vedette par celui-là en fait.
Bien fait. Eh ben écoute. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec celui-ci. Même si bon, il y a une histoire de microtransactions, il faut payer, il y a de l'XP, etc. Je trouve que les sensations de vol, etc. sont vraiment très sympas.
Est-ce qu'on sent la grosse next-gen ou bien parce que...
Pas forcément, mais le jeu est vraiment beau. Il est extrêmement beau. Je dois dire que les détails du terrain sont assez époustouflants. Puis comme je disais, la profondeur de champ est immense. Tu vois, à l'autre bout de la map, enfin, c'est bluffant ça. La même chose sur le Killzone. Enfin bref, autrement, je joue au Zelda comme tout le monde. Hein. Zelda sur 3DS.
C'est bien.
C'est bien. C'est effectivement bien.
Il y a une sorte de consensus à ce niveau-là, c'est assez bizarre. Personne pour le clasher, non ?
Je crois qu'il n'y a que Nintendo qui arrive à faire des consensus pareils. Hein. Presque.
C'est vrai.
En tout cas, là, c'est assez bluffant.
Bien ! Une petite news croustillante à se mettre sous le palais. Je sais que Sandro a quelque chose à dire.
Bon, je voulais pas. Bah, vous avez simplement amené comme c'est un peu. On a décidé de ça un peu à la DER, de changer et puis de couper la tête à notre citation du coin. Je voulais juste qu'on parle. Le but, ça sera que les prochaines fois, on vienne tous avec notre news à nous qu'on a envie de discuter pour qu'on puisse parler un peu d'actu, chose qu'on ne faisait pas jusque-là. Là, je pense que l'actu qu'il y a à discuter, elle est relativement évidente. On va, je pense, dire 2-3 mots de notre perception de la sortie des nouvelles consoles next-gen.
La nouvelle next-gen.
Hein,
ouais. Avec la PS4 en Suisse, malheureusement.
Faut pas dire qu'on est en Suisse.
Ah, pardon,
tu vas nous couper des Français.
Désolé.
Il y a un podcast de niche là maintenant.
C'était ça leur accent bizarre.
C'est ça.
Je croyais qu'il était
à gland en plus.
Donc, oui. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, personnellement, je trouve qu'il y a une certaine... hormis, effectivement, je sais plus qui me disait que les ventes suivent, hein, apparemment, ça, oui, ça marche bien.
Les ventes sont bonnes.
Mais, ouais, mais je trouve qu'autrement, au niveau retentissement, au niveau Internet, moi, je me souviens de la PS3, la Xbox 360, c'était l'excitation. On était tous... oh là là, une nouvelle console, on a envie de les voir, on a envie de les toucher. On est... en tout cas, dans l'équipe, je crois qu'on est tous, à part Yannick qui s'est fait avoir.
Yannick qui a craqué déjà.
Je ne me suis pas fait avoir.
Parce que Yannick, il gagne trop d'argent. Donc pour lui, c'était peanuts. C'était comme s'il allait acheter des bonbons.
C'est chump change. C'est pour ça que ce soir, je contrôle mon téléphone portable pour regarder si demain, je pourrais m'acheter une Xbox One. Exactement.
Tu sais, c'est banquier.
Tu crois pas que c'est juste parce qu'on est un peu plus vieux et qu'on regarde ça avec moins...
Mais il me semble même que sur le net,
tête,
je trouve...
Plus c'est
moins de cœur.
Il me
semble
qu'il y a quand même une euphorie au niveau des queues qu'il y a eu devant les magasins, ce genre de trucs.
Non, mais j'entends ça.
Mais au final, c'est, ouais, au final, sites, c'est la volonté de posséder. Mais posséder pour faire quoi?
Ouais, c'est ça, exactement. C'est de l'avoir pour l'avoir.
C'est de l'avoir
pour l'avoir.
Quoi.
J'ai envie de dire, d'ailleurs, les vidéos que tu vois sur YouTube, les mecs se courent dans les magasins. Moi, ça me fout la gerbe, honnêtement. Je trouve qu'il y a un côté malsain qui n'a pas de jeu.
Moi, j'ai quand même l'impression que le lancement se ressemble vraiment au lancement des autres, quoi. Vraiment. Enfin, j'ai pas l'impression. Il faut pas oublier qu'aussi au lancement de la PS2, par exemple, qui est la génération d'avant, Internet était beaucoup moins utilisé pour se renseigner sur le jeu vidéo. Mmh. Et on avait ces sortes d'entonnoirs qui étaient les magazines où tout d'un coup, la pression montait, puis t'avais ces magazines spéciales qui sortaient avec tout d'un coup la sortie des consoles. Il y avait une sorte de... attention que t'es plus forte. Là, ça fait un bon moment qu'on est, les news sont étalées sur les sites web. Je pense que là aussi, ça nivelle un petit peu, peut-être par le bas, notre excitation, en guillemets.
Puis c'est aussi peut-être les line-up qui font que nous, ouais, en tant que joueurs,
les line-up
vraiment...
ont jamais été bonnes, tu vois.
Non, enfin, c'est clair. Mais c'est vrai que comme disait Sam, on a peut-être vieilli, puis c'est les trucs, on est plus sage, on attend, et puis on verra ce que ça va donner quand ça sort, quoi.
Mais c'est vrai que l'effet d'Internet, enfin, a tellement tendance à tellement tout hyper qu'au
final... Non, la Xbox avait un bon line-up, hein, la une
avait
c'est
un
des rares consoles, oui, qui avait vraiment un putain de line-up entre Halo et tout cette Radio Future.
Avec, pour ceux qui aimaient, le line-up de la PS1 qui était bon en Europe, avec tous les jeux Psygnosis et Destruction Derby et autres, qui avaient un peu mis leur empreinte aussi. Mais c'est vrai que...
La Dreamcast, elle avait quoi? Parce que moi, je l'ai appris en euros.
La Dreamcast,
je l'ai pas pris en Jap.
Alors, en euros, c'était pas mal.
Ça me semble, en euros, c'était bien. Il y avait Soul Calibur,
il y avait Sonic.
Ouais.
Donc, il y avait Power Stone, il y avait des bonnes choses. En Jap, c'était pourri.
Ouais, ouais, moi, juste Pen-Pen.
Premier jeu que j'avais acheté sur la Dreamcast, Pen-Pen Tri-Island.
Voilà.
Le jeu de merde par excellence.
Ouais, elle a mal débuté. C'est pas pire que la PS2.
Non.
Oui, pour en revenir, bref, vous égarez, messieurs, vous égarez.
Complètement.
Moi, j'ai quand même l'impression que tous les bons jeux qui sont sortis ces fins d'année, ils ne sont pas sortis sur cette nouvelle console. Il y a eu des jolies choses sorties sur Wii U, en l'occurrence, c'est Mario 3D Land, World, pardon, World. Ouais. La 3DS qu'on voit le pâté depuis un petit moment. Mm-hmm. Plein de petits trucs aussi sympas sur Vita, sur d'autres consoles. Je pense que ça a quand même fait une bonne part d'ombre, parce que vu que les gens sont vraiment au taquet au niveau des tests, des notes, des critiques, vu que ça n'a pas été incroyable pour ces jeux next-gen, ben, peut-être qu'ils ont un petit peu suivi ça quand même. En tout cas, moi, c'est mon cas aussi.
Mais c'est souvent le cas, parce qu'au final, logiquement, quand tu arrives à la fin d'une génération, au début d'une autre, la génération passée est au maximum de la maîtrise, ou en tout cas, il y a une sorte de...
L'implantation des consoles.
Exactement,
chez les gens,
donc il y a aussi une motivation des éditeurs tiers à sortir des jeux dessus. Et puis, au contraire de la nouvelle génération, où on est en transition, donc on se contente de faire un peu plus joli, un petit peu plus de profondeur de champ, comme disait Yannick, un peu plus de confort, un petit peu plus d'options, mais rien de fracassant, quoi. C'est assez rare quand même les sorties fracassantes.
Puis le jeu qui aurait dû être le symbole, l'étendard de la next gen a été repoussé, le Watch Dogs.
Oui, effectivement.
Qui aurait dû être le jeu de fin d'année qui faisait acheter la console.
On est loin en tout cas d'une. Peut-être que le jeu le plus révolutionnaire entre Halo, il y avait Halo effectivement qui avait tout d'un coup mis vraiment un coup d'accélérateur. Et bien sûr, Mario 64. Ouais. Qui avait aussi là un gros coup d'accélérateur à l'époque.
Mais moi j'ai discuté avec des collègues qui étaient tous assez choqués quand GTA a été annoncé, qu'il ne sortirait pas justement sur une nouvelle gen. Ils disaient, mais ça, c'est le jeu qui pourrait faire vendre des consoles par millions, entre guillemets. Et puis à l'arrivée, c'est vrai qu'ils l'ont vendu avec ses grosses quantités parce que tout le monde avait déjà une PS3 ou une Xbox 360. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui fait que.
Ils en auraient vendu beaucoup moins sur les.
Parce qu'ils arrivaient déjà à poursuivre sur la production.
Mais bon, on n'est pas à l'abri de le voir sortir, celui-là, là, sur la.
Il y a des chances qu'il sort sur PC. Donc,
il y a des chances.
Dès le moment où il va y avoir une première extension, ils vont sûrement.
Puis, vu qu'elle ressemble beaucoup à des PC, je pense que s'il est annoncé sur PC, après, là, on n'est pas loin d'une conversion next-gen. Hein. Ouais.
Je demande aussi si les très gros jeux attendus, donc Titanfall ou Watch Dogs, justement, qui étaient repoussés, c'est pas aussi un petit côté logique, dans le sens que tous les gens qui veulent avoir la console vont l'acheter de toute façon, et ça fera un second gros boom en mars.
C'est vrai.
Quand ces jeux-là vont sortir, et du coup, là, il y aura des stocks qui seront suffisants, donc ça fera un second lancement, seconde période de grosses ventes pour ça.
Bien voilà, ça leur a permis un peu de tâter le terrain, et puis de regarder si les gens étaient déjà chauds, malgré un line-up assez pourri. Au final, ça mettra un petit peu d'argent sous le sapin de Noël de Monsieur Sony et Monsieur Microsoft.
Exactement. C'est ça. Mais il y a un truc que je voulais justement que je pensais quand même qui est différent d'avant, c'est que je sais plus, j'ai entendu parler de ça et je trouvais que c'était assez juste. C'est que avant, c'était un peu les plateformes où on jouait en fait. Vraiment, c'était vraiment avec la 360, puis même encore plus avec la PS2. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une ribambelle de plateformes de jeux, tant les téléphones portables que les iPads, que les PC, le PC est devenu un peu plus populaire. Enfin, avec le temps, il me semble que ça a quand même changé par rapport à l'état du début des années 2000. Et aujourd'hui, il y a tellement une multiplicité des plateformes de jeux que c'est un événement, mais c'est un événement parmi d'autres plateformes. Et j'ai l'impression qu'il y a moins ce côté. Avant, c'était l'alpha et l'oméga, quoi. C'était l'endroit où on jouait. Donc
ouais,
ça allait tout changer.
T'as
dit qu'aujourd'hui, c'est des plateformes importantes, mais elles sont parmi d'autres.
Complètement. Moi, j'ai rien à redire à ça.
Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais n'empêche, il semblerait vraiment que ces consoles soient très bien vendues, en tout cas très bien distribuées. Donc c'est quand même surprenant. On a un engouement un peu mitigé, en même temps, elles se vendent bien.
C'est les early. Enfin, d'ailleurs, il n'y a que des early adopteurs pour acheter des consoles qui ont des line-up pareils. Quoi.
Ouais. C'est ça.
C'est-à-dire que là, l'engouement est très fort parce que tout d'un coup, il y a une attente très forte. Et ils tapent au niveau des early adopteurs, entre guillemets, ils tapent plus large que Nintendo. C'est-à-dire que Nintendo, early adopteurs, c'est vraiment les fans Nintendo. C'est pas les familles, les trucs, à part avec la Wii, quand ils arrivent à élargir. Mais les early adopteurs, chez Nintendo, c'est assez étroit. Chez Sony et Microsoft, les early adopteurs, c'est très large. Et là, je pense vraiment que c'est ceux-là qui y vont de toute manière. Ils allaient les prendre. Il faudra voir les dynamiques dans les prochains mois. Je pense que c'est là où on va savoir quel sort est réservé à ces consoles. Et si c'est effectivement un épiphénomène ou si c'est censé.
Si ça les a bien lancés.
Il y a des gens qui se renseignent, t'as l'impression que justement que sur cette nouvelle sortie, puis qu'on le sait vraiment le truc tomber de ce qui ressort encore sur les anciennes consoles, entre guillemets. Et moi, j'avais le cas à l'époque avec God of War 2 qui était sorti sur PS2, qui était incroyable. Et j'ai un pote qui a acheté, il me fait « Ah, t'as déjà acheté la PS3 ?» Il commençait que c'était déjà sur la nouvelle génération, vu que graphiquement, c'était hyper
soigneux. Black m'a fait le même effet.
Et puis en fait, non, quoi. C'est juste qu'il y a eu encore des jeux qui continuent à sortir, même que la console n'est plus la dernière sortie, quoi.
Bien. Bah, je crois qu'on a un petit peu fait le tour de cette news. On va quand même accélérer le mouvement et passer aux jeux de la génération.
Après une pause musicale. Voilà. Tu aimes pas les pauses. Yannick, il aime pas les pauses musicales.
Il aime pas la musique,
ça l'énerve, il veut parler.
Mais non, on est bien parti, une bonne dynamique de groupe. Voilà. Pourquoi casser l'ambiance avec du Rihanna, je vous le demande.
Bah écoute, fais gaffe, je vais vraiment coller du Rihanna.
Non.
Pitié, non.
Alors un bref interlude musical. Et c'est reparti, nous sommes de retour après ce bref interlude musical qui, je l'espère, vous a plu. Sélection de Sandro, donc s'il y a des critiques, c'est vers Sandro le roux qui pue qu'il faut se retourner.
Oh bon, ou peut-être celui qui a décidé de la musique, c'est toi qui as décidé de la musique.
J'ai lancé une idée, j'ai émis une hypothèse que tu pourrais peut-être passer du Rihanna.
Donc je mettrai ton mail en bas du
podcast être sûr de recevoir des commentaires haineux.
Pour que ceux qui ont envie d'envoyer des insultes, ils peuvent les envoyer à toi.
Eh bien écoute, voilà. Ça marche, j'attends vos emails messieurs. Chers auditeurs et auditrices, j'attends vos critiques. Alors, on va parler un petit peu du jeu de la génération. Hein, et moi, ça m'intéresserait d'entendre vos opinions. Donc, je vais passer en revue chacun de nos critiques vidéoludiques pour leur poser la question, quant à savoir quel est le jeu de la génération. Et je vais commencer par Sam.
Ça y est, ça tombe sur moi.
Eh oui,
j'ai vu venir. Comme
ouais,
ça.
Tu le sentais.
Peut-être je commence par le fait que ça pourrait être pas mal de séparer en deux.
Oui, comme on a dit.
Hein, comme on l'a dit.
Comme on a dit, donc, un jeu que l'on appellera le jeu de la génération rationnelle.
On copie Game Cult, hein. on va
ouais, avouer, on va donner.
Ah ouais. Quand ils ont les bonnes idées.
Sans aucune honte, on va gentiment copier Game Cult. Donc, on va parler du jeu rationnel et ensuite du jeu coup de cœur de Monsieur Sam, puisqu'on a chacun eu un petit coup de cœur cette année pour un jeu qui peut être aussi bien très bon que très daubique, mais pour certaines raisons que chacun se réserve. N'est-ce pas ?
Voilà.
Donc, Sam,
on a le droit de tout dire, c'est formidable. Enfin, je suis libre. On va commencer par le rationnel parce que je pense que pas mal de gens parmi vous auront pensé à celui-là, peut-être pas choisi, mais c'est Dark Souls.
Ouais.
Mais
même si j'aurais pas choisi Dark Souls, j'aurais choisi Demon's Souls. Mais...
Ouais, bon, effectivement, voilà. Vu que j'ai fait Dark Souls en premier avant Demon's Souls, j'ai trouvé quand même qu'il était plus abouti par rapport à ce que je trouvais extrêmement intéressant.
Mais le côté novateur venait de
Demon's Souls.
Demon's Souls.
Effectivement. Alors pourquoi ? Pourquoi ?
Et pourquoi ?
La grande question. Je trouve que c'est un jeu qui allie extrêmement bien le meilleur du vieux avec...
C'est beau ce que tu dis.
Avec, avec plein d'idées surprenantes et vraiment avant-gardistes du neuf, du tout récent, des meilleures choses qui ont été produites ces générations-là. Et je trouve que de ne pas renier son passé, donc la difficulté par exemple, une liberté qu'on trouvait était plus dans les jeux, pour moi, plus anciens, et qui s'est un peu perdue en chemin sur certains titres AAA de cette génération... Ça, c'est des choses que j'ai vraiment appréciées. Avec des très bonnes idées de gameplay multi intégré à du solo, sans chat déjà. Sans gens qui te hurlent dans l'oreille, avec des familles à côté, des bébés qui crient, ou des gars qui te font trois triple lol, noob, no skill, etc. Je crois qu'au niveau de l'immersion, c'était un immense plus.
C'est vrai. Voilà. Quelle meilleure IA que le cerveau humain.
Ah, c'est beau.
C'est beau.
C'est beau.
Bon, on a des exemples historiques qui montrent le contraire.
Oui, effectivement. Mais...
J'ai marqué deux, trois petites choses encore en plus. Très important. Je trouvais que c'est un jeu qui concilie un level design de folie avec une liberté d'approche tout autant de folie. Et ça, je trouve que c'est rare. Autant au niveau de par où je vais, autant au niveau de la construction de son personnage, de vraiment faire ce qu'on veut. Il y a beaucoup de choses qui ne passeront peut-être pas parce qu'ils seront mal adaptés, mais il y a quand même un potentiel énorme, je trouve. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas de restriction, on peut faire ce qu'on veut.
Ça me parle, ça, c'est un retour aux sources.
Alors moi, ce que je trouve marrant, pour avoir lu un article tout récemment sur Kotaku, où il analysait Dark Souls au travers de la forteresse de Sen, qu'il trouve, en fait, en gros, que c'est un micro Dark Souls dans Dark Souls. C'est marrant parce que je pense, et je suis assez d'accord avec lui, c'est qu'en fait, il n'y a pas vachement de liberté d'approche dans Dark Souls. Pas au niveau au niveau du personnage hein. Au niveau
je
du personnage
ça,
tu peux y aller, mais au niveau du parcours entre guillemets ou du level design, il y en a mais pas tant que ça, parce que au final le jeu va te faire comprendre très vite, à part si t'es un PGM de la mort qui est capable de roxer un jeu à la frame. Je veux dire, le jeu va te faire comprendre en tapant sur la tronche que là c'est pas le bon chemin, mais il va te le faire comprendre de manière
extrêmement intelligente. Extrêmement et si intelligente. T'es un PGM, tu pourras le faire différemment,
mais c'est un fantasme, c'est-à-dire que c'est le fantasme du joueur, c'est-à-dire que tu vas te dire là j'y arrive pas parce que je suis pas un PGM, donc tu vas
oui
pas
et puis moi j'ai pas fait beaucoup, mais je me souviendrai toujours de mon début où il y a une espèce d'ascenseur où je suis descendu en bas de l'ascenseur de pierre
idée.
Après j'ai marché le long d'un rocher. Et là, j'ai vu des trésors. Je me suis dit, plein de trésors avec un dragon endormi. Et ben, il dormait pas. Et là, je vois mal comment j'aurais pu passer par là à ce moment du jeu.
Mais je crois que c'était suffisamment self-explanatory pour toi de dire qu'il y avait plein de coffres, plein de cadavres dans tous les sens et un dragon. Donc au final, que c'était un peu tenter le diable d'y aller.
Oh non, moi je me suis dit, c'est bon, j'ai de la chance, j'ai trouvé l'endroit.
Jeffrey Wood, on joue à Dark Souls, ils vont me donner plein de cadeaux gratos. Bien sûr, bien sûr.
Ah, moi je suis optimiste, moi.
Ah, complètement, complètement. Tu vis au
je
pays
vais être
des licornes.
Overstuffé dans Dark Souls dès les 10 premières minutes.
Exactement. Bien
sûr. Ça va ruiner ton expérience. Enfin voilà, c'est un peu les arguments que je viens de donner.
Je les partage.
Qui font que je pense que c'est un jeu extrêmement important, que j'ai beaucoup aimé aussi. Pas mon coup de cœur, mais... Et je trouve qu'il a apporté vraiment beaucoup de choses et je pense que j'espère que d'autres jeux vont s'appuyer sur ce jeu-là.
Moi, il y a un truc que je trouve bien et qui vont changer dans le prochain, c'est le fait que est-ce que c'est bien utile de mettre des classes ?
Il n'y a pas de classe.
Au début, on doit choisir une classe. Alors que ça serait plus clair parce que justement, comme le jeu n'a pas de classe, ce serait peut-être plus clair de nous dire vas-y, c'est parti, t'as un personnage neutre et puis t'en
oui,
fais ce que
ça,
tu veux.
Mais ça, c'est un peu du détail quand même.
Oui, non, ah, même bien sûr, mais je suis pas en train de dire que le jeu est mauvais. J'adore le jeu. Enfin, j'ai beaucoup joué, ouais, moi, à Demon's Souls.
Mais ça conditionne les 5 premières heures.
Mais bien sûr, mais c'est juste, je me dis, bah voilà, moi, ça m'avait, en tout cas, dans Demon's Souls, ça m'avait mis. J'avais vraiment une impression. Je connaissais pas le jeu, tu vois. Là, pour le coup, il y avait même pas eu un avant, donc je savais pas dans quoi je mettais les pieds. Et du coup, c'est vrai que ça. Tu te dis, ah, c'est hyper important. Puis après, tu te rends compte qu'en fait, tu fais ce que tu veux.
Pour moi, il y a 2-3 autres choses qui doivent améliorer, qui sont peut-être plus importantes que ça. Pour moi, c'est un petit peu la viabilité de certaines orientations de type de personnage qui est enfin, il y a un déséquilibre à ce niveau-là qui est assez clair, quoi. Et qui avait déjà dans Demon's Souls. Dans Demon's Souls, c'était plutôt
le corps
les magos,
à corps, ouais.
Ouais, les magos qui étaient surpuissants, ouais. Le corps à corps qui était impossible. Alors que c'est l'inverse dans Dark Souls.
Ah ouais,
alors, pas les magos, mais en tout cas, le corps à corps, la grosse stamina, le gros bouclier, le gros machin, le tank.
Ça marchait moins bien. C'était
très
plus
fort.
Basé sur un peu plus sur l'esquive. Voilà.
Moi, j'ambitionnais de faire une sorte de mec agile qui allait passer dans le dos, machin, sans arrêt. Ça va marcher un moment, mais il y a des moments où ça va être très compliqué contre certains boss.
Non, je suis pas d'accord. C'est faisable.
Ouais, je sais, mais toi, tu l'as fini en jouant au tank. Donc,
Je l'ai fini en jouant
et avec une voilà. soluce sur les genoux.
Non, mais tu l'as fini en jouant. Attends, là, ce que je veux dire. Non,
pas
mais ça. Je parle
c'est très
run.
Intéressant ce que tu dis. Effectivement, j'ai joué pas entièrement, mais en m'aidant un petit peu. Et je trouvais que c'était un jeu qui était tout aussi agréable à parcourir et à découvrir comme ça qu'avec rien du tout.
Alors attention, juste, je mets un temps mort et une objection parce qu'on va faire un podcast sur Dark Souls. Sinon, faut faire.
Oui, d'accord, non, mais on va juste. Enfin, okay, on a encore bon, un bref, petit peu de temps, ça fait 5 minutes, ça va. On peut, je pense, encore juste.
Ça revient à l'idée de liberté d'approche, un petit peu, je voulais dire, c'est qu'on peut y jouer un peu comme on veut. Si on a envie de spoiler le truc et puis dire, ah, j'ai plutôt envie de faire tel build, comme ça, on a aussi du plaisir à le faire.
Oui, d'accord.
C'est pas, ouais. Ça ruine pas le jeu.
C'est comme ça, c'est une question d'optique.
Voilà.
C'est-à-dire
moi, ça m'a pas ruiné le jeu du tout, au contraire.
Pour moi, encore une fois, j'ai pas fait Dark Souls, mais j'ai fait Demon's Souls. Pour moi, tout le plaisir venait de me démerder, quoi.
Je sais que si beaucoup de gens vont hurler au scandale d'avoir fait ça avec une. Pas de solution sous les genoux, mais avec mes dents bien, je suis sûr que plein de gens l'ont quand même fait et l'ont quand même apprécié.
Ah, je pense bien. Question de... c'est là, ça la force des jeux vidéo, c'est que tu vis aussi ton expérience avec ta. Avec comme tu as envie de l'apprendre, et puis du coup, des fois tu vas massacrer le jeu, mais dans ce cas-là, je pense qu'effectivement, c'est tout à fait.
C'est viable aussi.
C'est tout à fait viable, oui, c'est clair.
Bien. Bah, Dark Souls, joli, je comprends. Je comprends. C'est un bon choix. C'est
merci,
un choix,
monsieur. Merci.
C'est un choix mûrement réfléchi, je dirais.
Celui-là, il était quand même pas mal réfléchi et pas trop d'hésitation, effectivement.
Donc, ça, c'était ton jeu coup de cœur. Ton jeu rationnel.
Jeu rationnel.
Pardon. On repassera. Ensuite, on fera un deuxième tour de table pour parler des jeux coup de cœur. On va rester dans les jeux rationnels. Je vais en profiter pour me passer la parole à moi.
Espèce de sauvage.
Oh,
espèce de
sacre.
Sauvage. Parce qu'il a abordé quelque chose que je trouve important. C'est au niveau du multiplayer et de cette espèce d'idée innovatrice de revenir à un système où finalement on communique par un autre moyen que le micro avec les autres joueurs. Parce que moi, mon jeu coup de cœur, c'est. Le Journey, exactement. Le Journey sur PlayStation 3.
Coup de cœur, donc pas coup rationnel, coeur. Coup de cœur.
Ah, mais coup de cœur ou rationnel, parce qu'on est rationnel.
Je suis très embêté maintenant.
Mais t'as le droit de casser puis de dire coup de cœur. Hein.
Tu peux dire coup de cœur si c'était.
Mais faut être clair.
Ça peut être un coup de cœur rationnel aussi.
Mais c'est ça mon problème. Sébastien vient de mettre le doigt dessus. C'est que pour moi, c'est un coup de cœur rationnel. C'est que j'ai trouvé le jeu excellent. D'accord. Et je suis. Pour les raisons que je vais expliquer, je trouve que rationnellement, c'est effectivement, pour moi, le jeu de la génération. Il y a cette espèce de... Enfin voilà, déjà, on est catapulté dans un monde qui est féerique. Graphiquement, c'est minimaliste, mais ça laisse rêveur. Pour moi, c'est comme une poésie visuelle, on va dire. Ensuite, il y a tout ce système, justement, où on ne peut pas communiquer avec les autres. Et où il faut parler avec une sorte de langage musical. Et c'est tout ce... Comment dire ? Cette manière d'aborder le multiplayer qui fait que je trouve que c'est beaucoup plus immersif de jouer à un jeu comme ça que de jouer à un autre jeu où tout le monde communique, sort de son personnage pour commencer à raconter sa vie, on entend le gamin chialer à côté. Enfin bref, pour cette raison-là, je trouve que Journey, pour moi, c'était le coup de cœur et c'est rationnel.
Et Dark Souls a aussi utilisé un peu comme disait Sam, ce côté de pouvoir jouer avec d'autres gens sans pouvoir communiquer. Mais là, vraiment, dans Dark Souls, c'est sans pouvoir communiquer. Alors que là,
si,
mais par rapport à Journey, c'est moins
oui.
immédiat. C'est,
oui,
c'est, alors ça, c'est une communication qui est très indirecte. Tandis que là, pour le coup, elle est vraiment. Il y a un langage qui peut s'établir. Il y a vraiment une communication autre qui se met entre les joueurs. Effectivement, et c'est intéressant pour le différencier. J'entendais. Les deux sont très bons, mais pour différencier entre les deux.
Mais pour remettre, je pense que quand même Journey a pas ignoré Demon's Souls. Je pense que vraiment Journey.
Ah non, du tout.
Ils ont dû vraiment. Enfin, le cœur de ça. Peut-être ça remonte à avant encore, mais je pense que vraiment la graine.
Après,
tout le jeu est basé autour. Hein, le fait que ce soit un voyage initiatique tout seul ou à deux, toute l'architecture du jeu repose autour de ça au final.
Alors après, son but, moi j'ai vu ce très mauvais documentaire de Arte qui s'appelle Game Over, qui met à chier. Hein. On rentre dans le. Maintenant, je trouve qu'on passe dans une phase, je fais juste une petite parenthèse, de documentaire où avant on avait des documentaires à chier parce qu'ils disaient le jeu vidéo, c'est violent, c'est de la merde, etc. Aujourd'hui, on a des documentaires qui essayent de dire des trucs bien. Mais en fait, ils essaient de dire que c'est super, mais alors là, pour le coup, ils sont à côté de la plaque.
Ils parlent de DA.
Ils utilisent des grands mots. Mais par contre, il y a une petite partie où il y a une interview de Genova Chen qui est très intéressante sur Journey. Et justement, il parle que son but aussi là-dedans, c'était de faire du multijoueur, mais avoir une dynamique de jeu qui force les joueurs à coopérer à la place de les forcer à s'affronter, parce qu'il disait au début c'était le gros problème, c'est qu'il se rendait compte que toutes les mécaniques qu'il mettait en place dans Journey faisaient qu'ils essayaient quand même, au début ils essayaient quand ils avaient encore des bras, ils essayaient de se pousser, se foutre en bas les montagnes, etc. les bêta-testeurs, ils disaient moi je voulais trouver un jeu où j'incite le joueur à être bon avec l'autre, enfin à être généreux et bon avec la personne avec qui il joue, et ça c'est quelque chose que j'avais jamais vu et j'avais vraiment envie d'arriver à ça. Et je trouve que c'était pour expliquer le but derrière, et que je pense qu'effectivement peut-être la communication, tout ces choses-là, c'est peut-être pas ignoré de Demon's Souls.
Et une des plus grandes leçons, c'est qu'une humanité sans bras serait une humanité moins belliqueuse.
C'est ça.
C'est juste.
Pas de bras, pas de guerre. À défaut de chocolat.
Moi, je voulais juste ajouter un truc, c'est que c'est un jeu que j'ai aussi fait avec un immense plaisir. J'ai hésité aussi à le mentionner. Je trouve que c'est un jeu qui n'en déplaise à David Cage, qui véhicule des émotions extrêmement fortes. Tu l'as dit, c'est extrêmement immersif par son gameplay, par son game design. Mais au niveau des émotions, moi j'ai ressenti des choses incroyables avec ce jeu.
Mais comment on avait déjà discuté, les couleurs, l'ambiance, le fait en plus qu'il n'y ait pas d'histoire. Enfin, l'histoire elle est racontée par le biais des fresques que tu trouves sur les murs, ce que je trouve déjà grand. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien du tout. Ce qui fait que tu t'imagines dans ta tête l'histoire et ça te permet vraiment de t'immerger complètement dans l'histoire, parce que t'as que des indices qui au fur et à mesure apparaissent pour t'expliquer ce qui s'est passé dans le monde de Journey, mais au final c'est ton esprit et ta créativité qui travaillent derrière pour réaliser en fait ta propre poésie,
ta propre expérience, ta propre expérience,
ta mythologie d'une certaine manière aussi.
Et puis contrairement à David Cage, Genova Chen te dit, enfin Dead Game Company te dit pas, ressens ça, tiens ressens ça maintenant. Exactement. Maintenant je veux que tu ressentes ça à ce moment-là, je veux exactement ça. Non, il y a justement cette de par l'apport d'un autre humain qui va se comporter différemment, il y a ce côté où tu ressens ce que tu as envie de ressentir selon la personne avec qui tu joues. Ouais. Donc ça c'est intéressant du coup.
Et une dernière chose que j'ai trouvé très forte aussi, c'est la durée de vie du jeu, tout simplement parce que pour le prix auquel il était vendu, ça se laisse jouer et ça se laisse regarder comme un bon film. Au final on le fait en une session et je trouve que c'est une session de jeu qui est juste magique. C'est pour moi, je me rappelle, ça a été les je sais plus, je l'ai peut-être fini en 3 heures, après je l'ai refait de multiples fois parce que j'avais envie d'expérimenter toutes les petites choses qu'il y avait cachées à côté, mais je me rappelle que pour moi j'ai eu beaucoup plus de plaisir à jouer à ce jeu pendant 3 heures que de regarder un film. Pour moi je sais pas, ça a touché une corde sensible chez moi qui fait que je me rappelle, j'avais presque les larmes aux yeux à la fin du jeu, tellement je trouvais ça beau.
C'est beau. Je sais, juste Lord Bello peut pleurer.
C'est un être sensible comme tout le monde, il fait pas que de tuer des noobs.
Voilà. Mm-hmm. Ah, comme quoi, c'est vrai.
Faut juste lui enlever ses bras et encore une fois.
Et tout irait mieux.
Pas de bras, pas de chocolat.
Pas de chocolat.
Donc voilà. Oui. Et sur ce, je vais directement enchaîner sur quelqu'un d'autre. Attention, la roulette magique va tomber sur... Oh, Greg, il essaye d'échapper à mon regard.
Alors moi, ça va être le jeu... c'est très important, c'est le jeu de la gêne rationnelle.
Hein. Rationnelle. J'ai un
très rationnel. Avec un R majuscule.
Ah, il va me piquer le mien, salaud. Vas-y.
Ah, peut-être pas, je sais pas. Vas-y. The Last of Us, pour moi.
Non, c'est bien.
Voilà, The Last of Us, c'est le jeu de la gêne rationnelle pour moi. Parce que c'est le jeu qui cristallise toute une tendance très forte du marché du jeu vidéo qui a, on va dire, peut-être commencé avec Gears of War, qui s'est poursuivi très fortement avec Uncharted 2 et qui a trouvé son aboutissement avec Last of Us. Et c'est personnellement une... Alors, dans les grandes lignes, c'est une tendance qui ne me plaît pas particulièrement, mais force est de constater que quand on voit l'impact que Last of Us a sur les joueurs, a sur tous les tops, justement, jeux de la gêne et autres de tous les sites internet mondiaux, tout d'un coup... Last of Us devrait être le jeu de la génération, mais là pour le coup du cœur aussi. C'est-à-dire qu'en gros c'est une sorte d'aboutissement de cette génération de consoles, Personnellement, je m'y retrouve pas du tout. Mais force est de constater qu'il a pris une formule qui est, à mon avis, apparue avec cette génération de consoles et il l'a poussée au maximum, vu que c'est le dernier de sa génération. On n'en aura pas d'autres de ce type-là sur cette génération. Et moi, c'est un jeu qui me pose énormément de problèmes parce que, comme d'autres productions de Naughty Dog ou d'autres développeurs, hein, je ne mets pas le projecteur spécialement sur Naughty Dog, c'est un jeu qui, tout d'un coup, devient exceptionnel parce qu'il y a encore une fois quelque chose de cinématographique ou alors de série ou alors une émotion qui vient avant tout, à mon avis, de l'objet télévisuel ou du film, comme Sam a pu l'expliquer dans son papier sur Un coin de pixel, où tout à coup il y a une grande différence entre ce qui est raconté par les cinématiques et ce qui est raconté par le gameplay, et ça, c'est pour moi un problème de cette génération sur les jeux qui sont extrêmement mis en avant. Et pourtant, ben, c'est un jeu qui, certainement, dans le cœur de beaucoup de joueurs, dans le cœur de malheureusement beaucoup de développeurs, restera comme un des jeux de cette génération, et ça va certainement être une des pierres sur lesquelles la prochaine génération de jeux vidéo à laquelle on va jouer va se construire. Donc, alors j'exagère, je fais un tableau un peu noir, hein. Last of Us n'est pas un mauvais jeu, mais Last of Us a ce manteau de royauté comme ça, et je pense vraiment qu'il l'a, et c'est une réalité. Donc pour moi, c'est le jeu de la gêne rationnelle, voilà.
Alors moi, il y a un truc sur lequel je te trouve très gentil quand tu dis que tu ne mets pas le doigt particulièrement sur Naughty Dog, parce que moi, je mettrais le doigt particulièrement sur Naughty Dog. C'est-à-dire que tout ça nous vient quand même particulièrement d'Uncharted, à mon avis.
Ouais,
d'accord.
C'est même toi qui m'en parlais.
Moi, j'ai Uncharted 2, voilà. Comme ce jeu rationnel qui a amené pas mal de trucs à la génération vis-à-vis de ça. Et puis on rejoint avec Last of Us, qui est, comme tu dis, peut-être la dernière pierre de l'édifice, mais ça avait commencé déjà là à l'époque.
D'accord, Last of Us, ce qu'il a pour lui par rapport au jeu de la génération, c'est qu'il travaille sur cette fameuse cette illusion de maturité du média. C'est-à-dire que parce que tout d'un coup, tu abordes des thèmes que le média n'aborde pas forcément, ou alors il l'aborde, mais pas dans forcément les jeux mainstream, tout d'un coup, celui-ci les aborde, et en plus, avec une sensibilité qui est complètement plagiée de celle de la route, que ce soit au niveau du roman ou du film. Enfin, mais tout d'un coup, Uncharted n'avait pas ça. Uncharted avait une sorte de légèreté qui avait encore une résonance avec le média jeu vidéo, d'une certaine manière. Bien qu'il y avait, à mon avis, plein d'erreurs de gameplay, plein d'esbroufs, plein de malhonnêteté au niveau du gameplay d'Uncharted. Tout d'un coup, The Last of Us devient, se rachète parce qu'il y a cette aura, cette maturité qui est un écran de fumée, quoi.
Ce qui est particulier, je trouve, c'est qu'il confond maturité avec sérieux, être pris au sérieux. C'est un jeu qui, où il n'y a pas d'humour, qui est extrêmement, qui se veut sombre, dur, qui joue sur les émotions aussi, et il le fait bien par moments sur les cinématiques, etc.
Il est bien scénarisé d'ailleurs.
Il est bien scénarisé, excellent. Et très bien, les personnages sont excellents.
Très grande scène d'introduction.
Tout à fait, mais il se prend vraiment au sérieux. Mmh. À aucun moment, il va se tourner en dérision lui-même. Et je pense que ça a dû toucher les joueurs, ça aussi. Dire, là, on tient un truc sérieux. C'est...
Ouais. Du coup, c'est mature.
C'est pour ça que c'est le jeu de la génération. Pour moi, un jeu de la génération, parce que, comme vous dites, il a touché énormément de joueurs. Donc, c'est un jeu qui correspond à cette génération de joueurs, qui a une sorte de qui est d'une certaine manière une majorité, qu'on le veuille ou non, mais qui tout d'un coup se retrouve touché de manière extrêmement large par ce jeu, quoi. Et donc pour moi, c'est pas pour rien. Ça veut pas dire que c'est un grand jeu, ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu, mais j'ai l'impression que là, en tout cas, quand je vois le crépuscule de cette génération de consoles, j'ai l'impression que c'est un peu le jeu qui, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il arrive dans tous les tops. J'ai l'impression que c'est un peu le jeu, voilà, inattaquable. Essayez de l'attaquer sur un forum, vous verrez ce qui vous arrive.
Ouais,
le jeu du consensus intouchable, quoi. Alors qu'à mon avis, justement, il est très très à côté de beaucoup de choses.
Ben, effectivement, moi, si je dois le reconnaître, un truc que c'est bien faire Naughty Dog depuis Uncharted, c'est d'un point de vue gameplay, c'est de savoir amener le joueur assez naturellement là où il doit aller. C'est-à-dire que ça, c'est quand même mine de rien quelque chose de pas forcément évident à faire. Il y a beaucoup de jeux où, à couloir comme ça où tout d'un coup on se cogne contre un mur parce qu'on croit qu'on peut aller à l'endroit, on peut pas y aller. Tandis que là, chez eux, effectivement, ils savent donner une fluidité où on a toujours envie d'aller là où on doit aller. Alors ça, je leur laisse. Par contre, ce sur quoi je voulais revenir, c'est que j'avais entendu une interview d'un des développeurs entre autres d'Uncharted à l'époque de Uncharted 1. Et c'est vrai que c'est impressionnant de savoir que le jeu, pendant longtemps, n'a pas eu de gameplay, en fait. Ils ne savaient pas quoi faire comme gameplay et le gameplay ne marchait pas. Et ils ont essayé beaucoup, beaucoup de choses et qu'au final, ils se sont retrouvés avec ce gameplay de shoot un peu comme ça, qui marchait plutôt bien, mais que c'est pas... on sent à partir... Enfin, moi, je trouve que à l'époque où il faisait encore... J'aimerais voir si ça correspond à l'époque au le premier Jack and Daxter. Est-ce qu'il y avait encore Jason Robin, celui qui...
Oui.
Ouais. Et il me semble que quand ils sont partis, en fait, il y a eu un switch. C'est-à-dire que le premier Jack and Daxter, c'était du gameplay, quoi. Vraiment, c'était un jeu qui était... pour ça, il me fait penser aux derniers Zelda. C'était ces jeux où il y a très peu de blabla. Et c'est quasiment que du gameplay. Et c'était un jeu qui était fantastique en tant que jeu. Et après, on a eu un virage déjà avec Jack and Daxter 2. Déjà là, on a commencé à partir dans on veut raconter des choses, on veut le 3 pour ça s'enfoncer encore plus dans cette direction. Et alors après Uncharted et tout, on arrive à ce qu'on a aujourd'hui en fait. C'est-à-dire, mais c'est marrant parce que c'était une boîte qui à la base était
ouais, pas à l'époque de Crash Bandicoot aussi. Hein, Crash Bandicoot, c'était du gameplay, il y avait de l'idée, il y avait des ouais. idées. Ils étaient avec la technologie de l'époque. Je trouve qu'ils apportaient des choses au niveau gameplay. Voilà, je pense que sans vouloir prendre un tableau trop noir, je pense que Naughty Dog a fait à cette génération pas mal de dégâts. Alors, il y a des bonnes choses qui sont sorties aussi. Hein. Ils n'ont pas du tout apporté que du mauvais, loin de là. Mais le problème, c'est à quel point c'est devenu une sorte de lanterne, enfin une sorte de phare, pardon, pour cette génération, alors que ça aurait dû être une voix parmi d'autres. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça. Mais voilà, pour moi, Last of Us mérite le titre de jeu de génération parce que...
Je suis d'accord.
Il est à l'image de...
Oui. À l'image de cette génération, en tout cas...
C'est un peu...
Voilà,
c'est
d'un
peu...
point de vue extérieur, je pense que c'est
l'aboutissement de tout...
Et puis, il est très fréquentable, quoi. Mm-hmm. Même pour les médias extérieurs. Même
ah oui, parce que alors visuellement, comme c'est un jeu avec un gameplay voilà, qui est plus anecdotique que le reste, et ben, du coup, il se vend très bien visuellement. C'est tout de suite, dès qu'on montre un trailer, enfin, c'est un jeu extrêmement vendeur.
Je suis d'accord.
J'ai un peu plombé l'ambiance, désolé.
Non, écoute, c'était le jeu rationnel et on comprend la rationalité du Last of Us.
Après,
comme tu l'as dit, ça parlera pas à tout le monde. Donc, on fera avec et on fera sans. Mais maintenant, nous allons donner la parole à un de nos joyeux lurons. Et je pense que je vais donner la parole à Monsieur Sébastien.
Alors, moi, mon jeu rationnel, qui va déplaire à Sandro, mais je pense que c'est Call of Duty. Qui a malheureusement marqué, ou malheureusement, je sais pas, marqué cette génération pour plein de raisons.
Oh, le vol. Mais bon, j'en avais deux, donc
désolé.
T'as tout à fait raison.
J'hésitais entre ça et le FIFA, hein, venant de Sébastien.
Je suis de loin pas un
mais
fan
tu as
de
parfaitement
Call of Duty.
Raison,
ça, je pense que le Modern Warfare 1, encore plus, a vraiment marqué cette génération au niveau du développement du multijoueur sur les consoles en général. L'engouement qu'il y a autour de ces jeux, chaque sortie, c'est la folie. On en parle dans plein de médias pour différentes raisons, aussi sur le côté vendu à des jeunes qui n'ont pas l'âge, soi-disant ça peut faire des massacres dans les écoles, etc.
C'est un jeu à polémique.
Exactement, et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Mmh. Donc moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie vraiment de ces jeux qui, je trouve, qui a marqué cette génération de consoles.
Ouais, puis plus loin dans son mode de jeu.
Alors tout à fait, après ils ont réussi à faire un truc où les gens crushent dessus à fond, il y a leur système de prestige, de choses où les gens veulent toujours aller plus loin, c'est « t'es au prestige combien, mon shoot ?» Les gens se tirent la bourre là-dessus. Et j'ai plein de collègues qui sont à fond là-dedans.
Ouais, il y a aussi l'aspect un peu bro-game qui fait que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que dès qu'il y a un de tes potes qui joue, t'es obligé d'y jouer.
Bah si oui, tout à fait. Puis t'es obligé d'être meilleur que lui, t'as l'impression, ou de prouver que t'es. Etc. Donc c'est vrai que. Enfin, je pense que les autres ont.
Oh, moi je suis parfaitement d'accord avec toi. J'en avais deux et je savais pas lequel j'allais déjà voir ce que les autres disaient. Donc par hasard, Yannick m'a mis en dernier, c'est très bien. Voilà. Mais oui, effectivement, je suis d'accord avec toi parce que ça a changé ce côté multijoueur déjà où ils ont amené le système d'XP en multi que jusque-là on n'avait pas vu et qui était très bien vu. Même si effectivement, moi je suis pas le plus grand fan de ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens ont aimé. Ah,
c'est clair, c'est que plus tu joues, entre guillemets, plus t'es fort. Enfin, façon de parler, t'as plus d'armes, ce genre de choses.
Le gros problème, c'est que je trouvais extrêmement malin, d'ailleurs, c'était comme ça que c'était marketé dans le Modern Warfare 1, c'était que ce système d'XP dans le premier était presque marketé comme une sorte de tutoriel progressif pour le multijoueur. C'est-à-dire que tu commençais avec presque les armes les plus efficaces de base, qui étaient débloquées d'office. Et puis après, plus tu avançais dans tes niveaux, plus les armes devenaient difficiles à maîtriser.
Spécialisées.
Ouais, exactement. Ouais, spécialisées, complexes et tout. Alors que maintenant, c'est devenu la carotte. C'est-à-dire maintenant,
oui, c'est ça.
T'as l'arme de tueur au niveau 50. Et puis voilà.
Bah, c'est ça.
Donc, mais le premier était pour ça très juste.
Et puis surtout, dire aux joueurs aujourd'hui, dire voilà, reste, même si tu t'es fait laminer, puis que t'as fait zéro frag, et puis que tu t'es fait démonter.
Bah, tu montes quand même un peu,
regarde, t'as vu, tu gagnes des trucs.
C'est ça.
Et ça, c'est vrai que si c'était fait comme moi, j'ai peu joué au premier, enfin j'en ai joué un petit peu, j'ai un peu joué au deuxième, mais enfin moi j'ai pas beaucoup joué au Call of Duty comme chacun sait, mais effectivement si Greg dit qu'en plus ça le premier c'était structuré comme ça, là c'est intéressant.
Ouais, tout à fait.
Mais ça étonne que moyennement à l'époque c'était, premier, encore, c'était encore Infinity Ward, ça a commencé, les vrais, ceux qui sont respawn aujourd'hui, mais ça a commencé à baisser à leur départ, mais même déjà le 2 on sentait qu'il y avait moins de motivation, hein.
Beaucoup moins,
ouais, on sentait que le 1 c'était vraiment un jeu qu'ils avaient envie de faire et puis que le 2 on l'avait un peu poussé au cul pour le faire, donc,
et toutes les autres franchises, bon, allez, les mecs, c'est le moment du mois, il faut sortir le Call of Duty maintenant, on a besoin de vendre, n'oubliez pas que l'année prochaine à la même date il faut encore en sortir un. La pauvre vache,
c'est pas les seuls, il n'y a pas qui font ça, quoi. Prohibi avec Assassin's Creed, ce genre de choses, c'est aussi devenu un peu la même chose. Donc,
je suis d'accord.
J'ai l'impression aussi que c'est un des jeux qui a vraiment instauré cette mode du jeu qui sort de manière presque épisodique à chaque date, même moment de l'année. Ouais. Après, il y a d'autres franchises et séries de cette gêne qui ont fait pareil. Qui sont un peu... Mais il me semble que c'est vraiment eux qui ont lancé ce mois de novembre. Voilà, on sait qu'il y a
c'est
EA
avec les FIFA à l'époque.
Ouais. Oui,
c'est pour aller sur du plus vieux. Mais...
C'est presque eux qui ont lancé les histoires de Season Pass aussi, pendant qu'on y est.
Non, puis ils ont eu des choix, je sais pas si c'est... Mais il y a eu des choix, par exemple, au niveau de... Aussi gameplay, je trouve, qui sont hyper intéressants. Le 60 images secondes, par exemple, c'est pas un choix anodin. Je pense que si ça fait partie des ingrédients de Call of Duty qui sont très très bons et qui font ce qu'il est, c'est-à-dire que quand même faut pas oublier, justement lundi je faisais un cours sur les FPS donc j'en parlais, c'est quand même la vitesse, c'est ce qui fait un FPS ce qu'il est, en fait. C'est-à-dire que les problèmes au départ, c'est qu'il y a eu des jeux dans les années 70 qui étaient en 3D vue subjective où tu devais tirer sur les mecs, mais ils étaient à 6 frames par seconde, donc on peut pas parler de FPS. C'est pas pour rien qu'on a commencé à parler d'FPS à partir de Wolfenstein et de Doom. Alors avant il y avait Catacombes 3D qui justement était juste avant Wolfenstein, c'est idée qu'il avait fait juste avant, et puis à ce moment-là j'y ai rejoué récemment, c'était encore trop lent, en fait. On était à la première personne mais on tirait sur des ennemis, mais on peut pas encore dire c'est un FPS parce que même là les déplacements tournaient lentement, on se déplaçait très très lentement, et du coup à partir de Wolfenstein on a commencé à avoir cette pêche, on a retrouvé cette, au final de ce qu'on avait sur des R-Type, on retrouvait ces sensations qu'on retrouvait sur ce genre de shoot, en fait. C'est même marrant de savoir qu'ils étaient designés d'une vue de dessus, en fait, parce que c'était pas de la vraie 3D. Bref, je vais pas trop m'étendre, mais c'était vraiment designé au niveau des maps et tout comme un shoot, en fait, comme un shoot old school à cette époque-là. Et du coup, c'est ça que je dis, dans Call of Duty, ils ont pas perdu le nord. Le Modern Warfare, c'est dire la vitesse, c'est crucial. Mieux vaut que le jeu soit moins beau, mais qu'il est vite et il soit fluide. Et ça, je pense que c'est un choix par rapport à leur concurrent qui a été extrêmement payant, qui est extrêmement intelligent.
Ouais, je pense que Call of Duty est vraiment l'aboutissement d'une formule qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Comme dit Sandro, entre les emprunts à Half-Life, les choix d'Aaron Sight, le 60 FPS, le level design en multijoueur, l'invention des killstreaks qui était extrêmement équilibré dans le premier Modern Warfare. Enfin, il y a énormément de choses qui font que c'est le premier Modern Warfare, à mon avis, est un vrai, vrai grand jeu.
Qui avait l'air de rien.
Quand des puristes qui jouent qu'à celui-là, parce que je trouve que.
Mais moi, si
ça
je pouvais, si
évalué,
le réseau n'était pas complètement grévé par des pirates, des cheaters et autres, je pense que je jouerais, mais avec énormément de plaisir, à Modern Warfare 1 encore et toujours, sans problème. Pour plein de raisons, mais donc oui, effectivement, c'est un jeu qui a, c'est une formule génialissime, qui, c'est pour ça que j'y avais pensé en jeu de la gêne, mais qui vient vraiment de la gêne passée, les Medal of Honor, les Call of Duty, quand Infinity Ward bossait dessus, qui était vraiment, tout d'un coup, qui est arrivé à un sommet avec cette génération, mais c'est vrai que, après, ça fait que descendre.
Oui, c'est clair. Ouais. Oui, c'est vrai qu'après, parce que l'exploitation commerciale.
Mais attends, il y a des chiens dedans.
Ça a été pareil que, je sais pas si on a déjà parlé dans le podcast, mais juste pour faire un point sur cette histoire, c'est vrai que les mecs étaient déjà. C'est Vince Zampella et puis je sais plus comment il s'appelle l'autre. Bref, ils sont deux et qui avaient déjà officié sur le Medal of Honor Allied Assault sur PC. Qui était leur premier jeu très connu, qui avait marqué tout le monde par justement sa mise en scène en solo qui était spectaculaire, enfin vraiment présent dans un film, Faut sauver le soldat Ryan, quoi, avec le débarquement, c'était vraiment très impressionnant. Et ils avaient déjà ce feeling de tir, oui,
l'Iron Sight,
puis le feeling de tir très Call of Duty, quoi, déjà côté très immédiat. Et puis après, bon, on leur a demandé de faire 15 000 suites de Medal of Honor chez Electronic Arts. Ils se sont barrés pour faire un autre studio qui s'est appelé Infinity Ward. Ils ont fait Call of Duty, le Modern Warfare 1. Et puis après, le 2, ils ont été forcés de le faire pour des raisons commerciales. Et après, comme on ne voulait pas leur laisser faire leur jeu, à grand fracas, il y a eu pas mal d'histoires avec Activision. Ils se sont barrés. Et aujourd'hui, c'est ceux qui sont derrière Titanfall qui sortira sous Respawn Entertainment. Et je pense que Titanfall a bonne chance pour y avoir mis la main dessus avec Sam. Il a toutes les chances de massacrer les restes de Call of Duty qu'on voit aujourd'hui.
Ce sera intéressant de voir si justement ce jeu, Titanfall, mettra un nouveau standard pour Next Gen. Là, je pense qu'il va faire très très mal, vraiment.
On peut déjà apercevoir qu'ils ont, voilà, encore une fois, contrairement à Modern Warfare 2 qui amenait rien pour son tel jeu de commande, autant là on sent qu'ils ont voulu mettre la verticalité, en fait. Ce qu'on voyait, encore une fois, qui existait déjà peut-être dans Brink, mais en beaucoup moins instinctif. Enfin, là, nous on a joué une partie, mais enfin, c'est immédiat, quoi. C'est vraiment...
Non, on n'avait qu'une envie, c'est de jouer des heures de suite, jamais s'arrêter, jamais.
Comme Call of Duty 4 à l'époque.
Exactement.
Oh là là, quand je vous entends parler de ce Titanfall et de cette verticalité, vous me faites penser à Tribes.
C'est juste, Tribes était déjà très vertical dans une autre façon parce que
ouais. mais c'était un jeu qui avait une learning curve qui était très difficile et c'est pour ça que les gens crochaient pas. Mais le fait de retourner à l'heure actuelle dans des jeux où on utilise justement cette verticalité, à mon avis, c'est là que se trouve le salut des FPS en multiplayer.
Ouais.
Donc à voir, je me réjouis.
À voir.
Je me réjouis. Sur ce, Sandro, tu vas tout de suite enchaîner puisqu'il reste plus que toi pour le jeu de la génération rationnelle.
J'hésitais entre deux jeux. Seb, on a pris un. Alors, je suis désolé, je risque de prendre le jeu de coup de cœur de quelqu'un parce que je sais qu'ici on aime tous le jeu. Pour moi, le jeu de la raison, c'est Dragon's Dogma.
Standing ovation.
Non, qui pour moi vraiment.
Voilà, ça avait cramé pour la suite.
Est vraiment, je trouve, d'un point de vue game design et enfin l'avenir de la façon dont on fait des RPG, c'est brillant, quoi. Quand on voit, on en a déjà peut-être un petit peu parlé. Je sais plus si on en a déjà parlé dans le podcast.
Non, je crois pas plus que ça.
Parce que voilà, typique, on l'a souvent comparé à Skyrim et je pense que c'est l'opposé, quoi. C'est-à-dire Skyrim, c'est le design des années 90 et puis Dragon's Dogma, c'est le design des 10 prochaines années. C'est-à-dire il a l'intelligence de faire un jeu où déjà le joueur est libre. Enfin, il arrive à réunir le fait que c'est un grand univers dans lequel on peut se promener, où on peut vivre nos aventures à nous. Mais en même temps, tout en racontant une histoire, mais en la laissant filigrane derrière. C'est un jeu dans lequel on ne sait pas les quêtes principales, ce que c'est par rapport aux quêtes annexes. Tout est un peu flou. On se contente d'évoluer à l'instinct et du coup de vivre des choses qui nous appartiennent complètement, avec un monde hyper intéressant, un choix beaucoup plus rationnel que Skyrim, qui lui va tendance à dire je vais faire le monde le plus grand possible avec le plus de choses possible, quitte à que ça ne fonctionne pas très bien. Puis qu'il y ait des choses qui cadrent pas, on s'en fout, on remplit, on met le plus possible. Dragon's Dogma, c'est beaucoup plus rationalisé, le monde est plus petit, on est obligé de s'y déplacer à pied. Il y a vraiment des choix comme ça, vraiment où les donjons sont pas non plus, il y en a pas des millions et puis ils sont aléatoires, ils sont tous quand même designés à la main. Enfin, il y a pas ce côté où on bazarde des trucs automatiquement, et ce qui fait que le jeu a une consistance terrible. Et j'ai pas eu l'impression non plus de me dire oh mon dieu c'est trop petit, ou j'aurais voulu que ça soit plus grand. Et il y a cette sensation qui, je pense, parle d'elle-même. Quand j'ai joué à ce jeu, j'ai quand même eu l'impression de enfin jouer à quelque chose que je vois dans les cinématiques. Cette espèce de fantasme qu'il y a toujours eu de dire ah ouais, les jeux un jour ce sera comme les cinématiques, et Dragon's Dogma c'est ça, c'est à dire que il laisse la main au joueur sans arrêt, mais les choses qu'on peut faire sont tellement visuellement ça coupe le souffle, et sans oublier le gameplay derrière, c'est à dire que le gameplay est extrêmement carré. Chaque chose amène à une autre, vraiment pas, on pose pas plein de classes comme ça dans tous les sens, et puis le joueur il aura accès à plein de classes, il sera magicien, il sera ci. Non, chacune on les débloque dans un ordre quand même, il n'y en a que trois au début, puis après on va débloquer les suivantes, et après on peut passer de l'une à l'autre librement, et chacune permet de gagner des choses qui seront utiles à l'autre pour monter des personnages assez complets. Il y a énormément de possibilités. Enfin, c'est brillant tant du point de vue mécanique que du point de vue immersif, et ça, je trouve que c'est très très impressionnant.
Moi, c'est un des jeux les plus épiques, pour les raisons que tu viens de dire aussi, pour le côté, on a un sentiment de jouer des cinématiques pour une fois, et on s'envoie des patates monumentales. Je veux dire, mais enfin, ces cinématiques qui sont d'habitude figé où on lâche la manette pendant quelques secondes. Enfin, je suis dedans, c'est moi qui l'a fait. Elle est là pour moi, c'est moi. C'est pas,
et
c'est
puis pas elle n'est pas imposée dans un tracé comme dans un Last of Us où il y a un moment donné on a tout agencé pour que ça ressemble à... Non, c'est vraiment dans un monde à la Skyrim libre où il y a des événements qui se déclenchent selon un item.
Je voulais juste ajouter que je pense que c'est un jeu qui est très proche, en tout cas qui passe un peu les mêmes postulats que Dark Souls justement.
Oui, il y a
beaucoup de liens de parenté, aussi c'est une recherche du jeu multi qui n'est pas un réel jeu multi, mais tout de même il y a quand même quelque chose qui se passe avec d'autres joueurs. Je pense que c'est des... Voilà.
Mais j'ai peur que Dragon's Dogma, contrairement à Dark Souls, autant Dark Souls, même si voilà, il n'a pas fait des ventes monumentales, mais il a quand même un vrai succès, une vraie présence sur les sites internet, sur les forums, sur les... Autant Dragon's Dogma, j'ai malheureusement peur que ce jeu soit le grand oublié de cette génération à cause de l'ombre énormissime de Skyrim.
Ouais, c'est clair qu'il a été
venu complètement obscurcir vraiment.
Surtout qu'il est sorti quasi droit derrière.
Droit derrière, en plus c'est ça qui est terrible. Bah,
6 mois plus tard.
Derrière, même pas.
Ah même pas.
Mais non, Skyrim est sorti en novembre. Et c'était en début d'année.
En janvier ou février.
Ah, c'était en juin. Ah ouais, avril. T'as raison.
Il est sorti très tôt dans la ligne. Et là, du coup, quand les gens étaient en plein Skyrim pour le grand public, en tout cas, Dark Souls est arrivé. Avec ce début plus sec.
Ouais, plus sec. Ouais. Les 4 premières heures, c'est...
Ça a dû rebuter plus d'un.
Beaucoup. C'est une grosse erreur de Capcom. Je pense que là, sans vouloir aller dire faut aller dans le gros produit, dans le gros truc, il y avait peut-être moyen...
Ou alors de faire un mode, parce que moi, en fait, je suis pas sûr, j'aurais eu envie qu'ils me prennent par la main trop, parce que c'est le plaisir de...
Pas prendre par la main, mais trouver peut-être une manière un poil plus...
Un peu plus douce.
Entre guillemets, même nous, hein, même entre guillemets, le début nous laissait un peu dubitatif au tout début.
Oui, ah bah oui, au tout début, on était on se prend aussi l'apparence graphique qui au départ qui est compliqué. Assez compliquée. Ouais. Donc c'est vrai que là, c'est ça qui est le plus dur. Parce qu'après, au niveau des mécaniques de jeu, je trouve que le plaisir est de justement les découvrir. Bah, c'est un monde ouvert et pour ça, c'est hyper intéressant parce qu'on va du coup découvrir suivant ce qu'on va faire. On va découvrir les mécaniques par un bout ou un autre. On va pas tous découvrir les mécaniques dans le même sens, dans le même ordre. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi.
Et voilà, on a vécu un truc. Alors après, attention, il y a peut-être le syndrome avec Dragon's Dogma, il y a le syndrome. Que j'appellerais Morrowind, c'est Dragon's Dogma, si vous voulez bien, c'est le premier de la série qu'on aura fait, parce que c'est Dragon's Dogma, il n'y en a pas eu deux, comme par exemple moi, Morrowind, c'est le premier Elder Scrolls que j'ai fait, où tout d'un coup tu découvres toutes les mécaniques, donc tu as tout ça à dompter aussi, dans Morrowind, j'étais balancé dans Spore il y a 10 ans en arrière, et puis j'étais, oh mon dieu, et je découvrais toutes les mécaniques, et maintenant forcément, à chaque Elder Scrolls, la magie s'estompe.
Et c'est la sensation qu'ont eu le grand public avec Skyrim.
Exactement, c'est le grand public, Skyrim, c'était leur premier Elder Scrolls, c'est la folie, et je peux tout à fait le comprendre, parce qu'effectivement, le premier Elder Scrolls que tu fais souvent c'est n'importe quoi. Dragon's Dogma c'est notre premier Dragon's Dogma, maintenant à Capcom d'être intelligent pour s'ils veulent faire une suite qu'ils la remanient, mais bon ils ont déjà fait preuve d'intelligence avec le Dark Horizon, ils ont montré qu'ils arrivaient à ils étaient assez conscients des choses et des points forts de leur jeu, je pense.
Tu disais tout à l'heure c'était un peu qu'il avait quelque chose de même chose que Dark Souls, ça m'a fait penser que c'est un peu le fils bâtard de Demon's Souls de Monster Hunter et de Dark Souls en fait. Il a quelque chose
il a un côté en fait je pense beaucoup moins précis que ces deux derniers. C'est ce qui peut lui être reproché quand même, c'est épique, ça pète, le gameplay est génial, mais il est quand même, il pardonne plus d'erreurs, il est quand même moins précis. Mais c'est vrai que Dark Horizon, donc l'extension qui a été faite avec un donjon à explorer, prend énormément sur Dark Souls et Monster Hunter, avec vraiment ce côté on va le plus loin possible. C'est beaucoup plus dur. Ouais. Et moi, j'ai passé vraiment des dizaines d'heures dessus, mais j'ai trouvé ça génial. Quoi.
Puis il n'a pas peur, un truc aussi, parce que moi, je le jouais en parallèle de Greg, et lui, il avait pris une classe très différente de la mienne. Moi, j'étais parti très corps à corps avec des grosses épées, etc. Et lui était plutôt parti, je crois, sur les assassins. Et puis, il n'a pas peur de dire, voilà, il y a certains endroits, si tu as choisi une certaine classe, tu ne passeras pas. Parce qu'il y a des monstres qui sont tellement... Voilà, qui ne correspondent pas. Moi, il y a les chimères, au début, qui étaient insupportables.
Tu vas faire confiance à tes pions. Il va falloir que tes pions fassent le boulot, et ils feront le boulot.
Oui, ils feront le boulot. Mais il y a ce côté de pas vouloir, des fois il y a ce nivellement où on a l'impression qu'il y a beaucoup de classes mais on veut mettre un truc au milieu pour que n'importe quelle classe puisse quand même accéder partout. Il y a ce truc de dire voilà, tel monstre il sera très facile, c'est très Capcom quoi, de dire voilà, tel monstre s'il sera abordé de telle façon il sera facile, enfin il sera faisable, alors que si on arrive avec d'une autre façon de faire ça va être vraiment très difficile. Enfin,
ça, on a envie de dire aux gens maintenant, voilà, vous prenez Dragon's Dogma, vous allez dans la nuit, vous explorez cette forêt, vous tombez sur une chimère et vous battez contre cette chimère, après vous verrez.
Voilà.
Et là, si vous la battez, vous allez pleurer de joie et pousser des cris tout nu dans le jardin en courant. voilà.
Épique! Épique. Je comprends. Je ne sais pas comment j'ai fait pour oublier Dragon's Dogma. C'est juste. je ne sais pas. Ça aurait pu venir de ma personne, ce Dragon's Dogma.
Voilà.
Mais bon, on va passer au petit jeu coup de cœur rapidement.
Ouais. Hein.
On va recommencer avec Seb tout de suite. Je sens qu'il est chaud.
Seb, il est chaud.
Ton jeu coup de cœur.
Je crois que c'est Castlevania, Lord of Shadow.
Joli, joli, j'ai plaisir.
J'ai passé pas mal d'heures dessus avec un grand plaisir. Je me rappelais plein de souvenirs de l'époque quand je jouais à Castlevania sur ma Super Nintendo. Et puis, qui a repris plein de choses, de plein de jeux, en fait. De prendre le meilleur de plusieurs choses, de faire un peu un mix comme ça. Ça a été critiqué par certaines personnes parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas d'originalité. Mais enfin, je trouvais que c'était à l'arrivée un bon jeu et puis qu'il a apporté plein de choses cool, quoi. Enfin, moi j'ai bien aimé
c'est un jeu qui a une âme. Mm-hmm. Et voilà, tous ceux qui critiquent, justement, qui piquent à gauche, à droite,
ouais.
Je trouve peut-être, mais c'est comme la créature de Frankenstein, quoi. Ils ont créé un monstre qui a vraiment, vraiment une âme et qui a une noblesse en plus. Enfin, c'est un des jeux les plus nobles que j'ai fait sur cette génération.
Beaucoup plus que son concurrent, n'est-ce pas?
Absolument. Tout le monde attendait son concurrent. Et c'est vrai que la démo avait été, à mon goût, très mal choisie parce que ça donnait vraiment très cette impression que c'était un gros beat démo connu et qu'on allait savoir à quoi on allait arriver.
Et puis c'est
en fait, rien à voir. Quoi. Ouais. Donc, je pense peut-être que ça a loupé des ventes à cause de ça. Mais...
Ouais, oui, bah, enfin, nous les premiers,
on a failli passer à côté.
On était très sceptiques. Ouais.
Tout à fait.
Vieille copie de God of War, bon, voilà quoi.
Ouais, ouais.
Quel grand jeu au final. Ouais, joli choix, ouais. Joli choix, joli éclairage.
Je suis d'accord, vivement le nouveau.
Oui, bientôt, début d'année.
Ouais. Ça s'annonce très fort, très fort. Sandro?
Non, je viens de parler moi.
Tu as pas envie de reparler?
Non, je vais donner des vacances aux gens.
Sandro a pas envie de parler, la honte. On va donc passer la parole à Greg.
Bon, je vais faire vite. Je vais faire vite parce que de toute façon, je vais avoir de mal à défendre. Mais moi, c'est très simple. J'arrivais pas à me décider. Je me suis dit, je vais dire ce qui sort sur le moment parce que j'avais trop. Ah, ça va être Alan Wake. Voilà.
Oh, c'est bravo, ouais. Bravo, ah, bravo. Ouais, ouais, ouais. Je pensais que j'hésitais. Je me suis dit, est-ce qu'il va dire Monster Hunter ou Alan Wake?
Non, Monster Hunter, c'est une formule qui. Voilà. Ouais, bon, tu vois, vous allez me dire Alan Wake aussi, d'une certaine manière. Mais, ouais. Mais Alan Wake, voilà. Alan Wake, parce que pour mille raisons. Alors, c'est pas forcément un jeu qui est très ancré dans sa génération. En termes de gameplay, de game design, ce que vous voulez, mais par contre, je pense que c'est un jeu qui est très ancré dans sa génération au niveau de la narration. En fait, il fallait qu'un studio arrive à une certaine forme de maturité narrative pour que Alan Wake soit là. et je pense, voilà, il est arrivé, c'est une évidence, il était ontologique à cette génération de consoles. Voilà, enfin, je vais pas revenir trop dessus parce qu'il y a énormément de gens, on dit beaucoup de choses dessus. C'est un jeu qui a été énormément critiqué sur son gameplay, sa répétitivité. Je pense que déjà, ça c'est faux, à mon sens. Enfin, après, chacun le ressent comme il veut. Mais je pense que c'est un jeu qui a des éléments très identifiables de gameplay, qui sont très clairs. Et je pense que tous ces éléments se combinent et permettent au jeu de vivre vraiment et de faire au joueur de vivre une vraie expérience de gameplay qui en plus arrive dans un jeu qui est pourtant très narratif à créer des moments de gameplay narratifs. Quand au dernier moment tu enclenches ta fusée en arrivant au lapadaire que tu constates qu'il foire et puis tu enclenches ta fusée rouge et puis que là t'es... enfin voilà, il y a des moments uniques dans ce jeu. Moi c'est un jeu c'est un des jeux qui m'a le plus accompagné, le plus habité sur toutes les générations par son gameplay, par son ambiance, sa musique, partout quoi.
C'est marrant parce que le côté répétitif que tu dis dans le gameplay, moi il m'a dérangé en y jouant. Par contre, je suis quand même allé au bout et je sais pas, il y avait un truc qui m'appelait à chaque fois à y retourner et à y aller. Puis en fait, en y repensant après coup, ben j'y pense encore maintenant alors que le jeu, sur le moment, m'a pas vraiment marqué. Par contre, il y a un truc qui reste.
Il y a un truc, ouais.
Je sais pas, j'arrive pas à dire quoi, mais il y a un truc qui reste au fond.
Pour comprendre, le gameplay effectivement a quelque chose de très franc, quoi. C'est direct, les règles sont claires.
Peut-être qu'il y avait eu d'autres choses, ça aurait pas fait la même chose derrière.
Je pense en tout cas, la formule Alan Wake marche à la perfection telle qu'elle était. En tout cas, voilà. Après, si Alan Wake 2 doit venir une fois, j'attends d'autres choses. Certainement, je voudrais pas une version mixte avec un scénario plus évolué. Je voudrais quelque chose d'autre parce que je pense que là, ils étaient arrivés à quelque chose de très juste entre gameplay, histoire, façon de raconter. Voilà.
Moi, j'ai remarqué ça, en tout cas, que c'est un jeu qui m'a beaucoup touché, alors que sur le moment, j'ai pas cru plus que ça. C'est quand j'ai joué au spin-off qui est sorti, donc American Nightmare, où je me suis replongé dans ce monde-là. Le gameplay était un tout petit peu différent, mais je me suis aperçu que je me souvenais de tous les codes, je me souvenais de toute cette ambiance, de tout du personnage, j'étais hyper attaché. Et directement, je me suis dit, ah, mais en fait, non, il m'a quand même bien marqué, il a ancré quelque chose, quoi. J'ai aussi beaucoup aimé le jeu. Pour son ambiance et pour sa narration, principalement.
Puis un jeu littéraire, alors sans prétention, hein, c'est pas un jeu qui va taper dans la haute littérature, mais jeu qui.
Nettement plus abouti que la plupart des autres jeux.
Qui crée des ponts, littérature, jeux vidéo, que je trouve plutôt chouette, plutôt humble, et en même temps, de culture pop. Culture pop, mais de manière très intelligente, avec beaucoup de respect pour les inspirations. Donc voilà, pour moi, mon coup de cœur.
Juste.
Et moi, j'ai vraiment pris, je voulais dire, parce que moi, ça a été un rendez-vous manqué sur Xbox, où j'avais pas réussi à accrocher. Et après, je l'ai repris sur PC plus tard. Et c'est vrai, bon, moi, je suis plus à l'aise sur PC. J'ai grandi avec un PC, donc la visée à souris. Et là, j'ai pu vraiment prendre plaisir au gameplay. Et vraiment, je dois dire, il y a quelque chose dans le gameplay qui résonne très très bien avec le reste, en fait. C'est-à-dire que j'avais un truc, mais ça vient de partir. Je l'avais en tête et je voulais dire quelque chose par rapport à ça. Mais je vous laisse continuer. Ça me reviendra peut-être.
Ah, carrément.
Ça m'énerve parce que j'avais trouvé. Tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais tiens, mais oui, mais c'est ça qui marchait bien. Et voilà, ça m'est sorti de la tête.
Sam ?
Bon, moi j'en ai plein. Hein. Je vais commencer par un coup de semonce. C'est pas un jeu sur console, mais un jeu qui m'a marqué.
J'ai le droit d'en dire qu'un. Hein.
J'ai le droit d'en dire qu'un. Mais de toute vous allez dire que j'ai pas le droit de dire celui-là, donc je dirai un autre après. World of Warcraft. Qui m'a marqué.
T'as pas le droit de dire celui-là, disons bien en autre après.
C'est un jeu PC.
Voilà, c'est un jeu PC, j'ai pas le droit de dire ça. Non, mais qui aura marqué, on va dire, mon cœur de joueur malgré tous ses défauts. Donc j'ai le droit de.
Je quitte ce podcast.
D'accord. Bon, je vais dire un jeu console qui est aussi un jeu PC, je m'en fiche. Je vais dire. Tu t'es sûr, je vais dire Mass Effect, hein, t'es sûr?
Bon, alors, non, j'ai pas de préjugés.
Non, je vais dire Far Cry 3.
Far Cry 3.
J'ai longuement hésité, mais c'est un jeu qui m'a énormément touché. Énormément par son double discours, par sa cohérence gameplay-discours qui n'était pas simple à comprendre. J'ai beaucoup, beaucoup lu dessus, beaucoup cherché, mais qui m'a profondément touché vraiment et qui m'a permis d'aborder un nouveau regard sur tous les jeux que je fais maintenant. Je ne vais pas revenir dessus maintenant parce que c'est assez compliqué, mais disons que c'est un jeu qui est extrêmement, à mon avis, audacieux et qui était très, très mal compris.
Auto-promo, écoutez le podcast.
Oui, voilà, écoutez le podcast.
Sandro, tes réflexes là.
Oui, c'est vrai, je suis désolé, il faut que je fasse mon publicitaire. Non, mais oui, effectivement, il faut écouter. Bon, bien qu'à l'époque, on a testé notre deuxième podcast, notre premier, je ne sais plus combien
c'était.
C'était
le premier.
Donc, c'était un peu bordélique, mais on a, voilà, au moins l'essentiel y est, hein, j'ai envie de dire. Voilà,
Donc, j'ai longuement hésité, mais celui-là, il m'aura apporté vraiment beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup.
Joli choix aussi, ouais.
Et moi je trouve toujours pas le truc de Sam Samy.
Tu trouves pas? Moi j'ai un jeu du cœur, mais vous ai dit Journey pour moi c'était les deux. Mais après si un jeu cette génération qui m'a beaucoup occupé, qui a pris énormément de mon temps, mais ce sera jamais un jeu de l'année, c'est le Warwalk. Je sais que
Ah, j'ai adoré.
Je sais que
est-ce que vous vous souvenez de cette magnifique soirée?
Mais bon, vous n'avez pas croché, mais je trouvais que c'était un jeu qui amenait quelque chose. En plus, c'était un des premiers jeux qui est sorti sur la PlayStation 3. Je me rappelle, c'est un jeu que tout le monde a quasiment acheté. Et
mais
à
il
grande époque.
Parce qu'il était offert.
Non, il était pas offert.
Ouais, non, il était très vite offert.
Il était très vite offert.
Tellement
mais
il était
je
bon.
Me rappelle, mais sur un jeu console, je crois que c'est le premier jeu où j'ai eu autant de plaisir à jouer en ligne. Parce qu'il y avait tout ce système de véhicules, il y avait tout ce système des maps immenses, des combats aériens qui étaient juste incroyables. Et il y avait de nouveau une learning curve qui était très élevée. Enfin, c'est pas un jeu où tu prenais le jeu en main, puis tu gagnais juste parce que tu avais une arme abusée. C'était vraiment du skill. Il y avait du talent. Les joueurs qui sont restés jusqu'à la fin et qui jouaient avaient du talent. Il y avait toute une. Enfin, il y avait des combats.
Mais il y a encore des serveurs ou pas?
Parce
il y a encore. Hein.
Il y a encore des serveurs, mais il n'y a plus beaucoup de monde qui joue.
Il y avait un client de l'époque. Faut pas dire de nom, donc
ouais.
Faut pas dire de nom, mais
ouais.
Un client, un gars assez âgé qui a une entreprise où.
Ah oui, voilà, d'accord, oui, je vois. Ouais.
Qui jouait que par Warhawk.
Fallait voir les gestes.
Et à chaque fois, il était. Voilà. Il était Warhawk, c'est fantastique.
Bah, j'ai retrouvé mon truc sur Alan Wake.
Eh ben, ça tombe bien parce que Sandro, c'est toi qui va clôturer.
Ouais, d'accord. Mais avant.
Notre analyse à coin.
Alors, juste, ouais, je disais, il y a un truc dans Alan Wake que je trouve génial, c'est la façon. dont ils ont dans les combats, ils ont géré la tension en fait. C'est que ils ont, ça a toujours été la grande interrogation de Resident Evil dans tout ça, et je trouve qu'ils ont réussi là où beaucoup ont échoué, c'est-à-dire que en rajoutant ce fait de devoir éclairer avec la lampe de poche, on a un personnage qui est hyper mobile, donc qui est pas du tout comme dans un survival horror qui est en train de qui se dirige comme un camion, mais qui est hyper agile, qui se dirige vraiment très très bien, qui est hyper agréable pour viser, pour tirer. Mais de l'autre côté, on a cette tension parce qu'on est obligé de braquer la lampe de poche, on a des piles limitées, il faut faire sauter cette ombre et après seulement on peut leur tirer dessus. Donc il y a une tension là qui est...
C'est une manière extrêmement intelligente de gérer ce concept du crowd control sans que ça se transforme en je tire la sulfateuse dans le tas. Tout d'un coup, il faut gérer les angles d'attaque des ennemis en les éclairant, en faisant qu'ils se rassemblent, en fuyant. Enfin, voilà.
Et parfois fuir, il n'y a vraiment pas le choix de fuir.
Ah, des fois, il faut fuir. Jouer en cauchemardesque, c'est fuir. Mm-hmm. Et c'est génial. C'est génial, il faut jouer à ce jeu en cauchemardesque si vous avez le courage. C'est génial, c'est là où le gameplay
trop peur.
Est monstrueux. Voilà.
J'aurais jamais le courage en budget. J'ai flippé en normal.
Ah ouais, mais moi aussi, j'ai flippé.
Je l'ai fini en cauchemardesque.
Clairement
c'est
flippant.
Monstrueux.
Okay.
C'est
monstrueux. Bah, alors, bravo.
Au casque et dans le noir.
Ouais.
Au casque et dans le noir.
Ah ouais, en effet.
Bien.
Bon.
Je crois qu'on avait le tour.
Bah, t'es gentil, puis moi, j'ai pas le droit de dire mon jeu.
Oh, désolé, Sandro.
C'était Alan Wake qui l'a dit.
Ça nous intéresse pas.
Ah, d'accord, ok, je me casse.
Bon, vas-y, Sandro.
Bon, bah, moi, sans surprise, c'est Nier, hein, vraiment. Voilà.
Sérieux ?
Ouais. En fait, c'est marrant parce qu'il partage des choses avec ce que disait Sam sur Far Cry 3, mais 2 ans avant, sans vouloir être désagréable. mais vraiment aussi, il a déjà sa thématique qui est à double discours et qui est vraiment un point, une espèce de point dans le temps sur le jeu vidéo, une espèce de dire voilà où est-ce qu'on en est et aussi comment est-ce que, quels sont les rôles des personnages, quel est le rôle du game designer, comment est-ce qu'on construit un jeu. Et il y a ce métadiscours, alors beaucoup plus, c'est japonais quoi, c'est beaucoup plus enfoncé que dans un Far Cry justement, mais c'est vraiment brillamment fait. Il a cette narration avec cette quadruple fin, mais je dirais surtout double fin, parce que quand on finit le jeu, après on recommence à un point et on refait la fin du jeu, et ce qui est essentiel au jeu et qui rend le jeu infaisable autrement qu'en jeu vidéo, parce que pour le reste il est relativement... Plus il ressemble, il ressemble à un Zelda s'il faut l'approcher de quelque chose, mais
oui. Vu qu'on fera sûrement un podcast dessus, par exemple, peut-être pas trop, trop quand même.
Non, mais oui. je donne un résumé, on d'accord, en parlera d'accord. plus.
C'est comme à la Wake, on va faire 3 podcasts dessus.
Voilà.
Nous, en bonus.
Mais vraiment, ce fait de refaire et puis là de prendre vraiment une claque dans la deuxième fin, et puis des personnages qu'on n'avait jamais vus, une écriture, des dialogues doublés à merveille, et vraiment quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Vraiment, pour ça, bon, inévitablement, on s'y attendait pas. C'est un jeu qui sortait.
Tu t'y attendais pas du tout.
Oui, alors pour le coup, quand je l'ai reçu au magasin, je l'insultais. Je disais que ça fera plaisir à un de nos clients qui était là quand j'ai reçu, qui arrête pas de me dire oui, d'ailleurs, quand tu l'as reçu.
Mais t'as raison, d'ailleurs, ça a marqué un peu, tu sais, moi, ce truc où on avait. Nous, alors, on va dire sans jouer les péteux, mais on avait 2 ans d'avance sur tous les sites qui 2 ans après faisaient tous leurs articles, le jeu vidéo japonais est mort. Moi, ça, c'était le pic où je me disais, ouais, vraiment, alors Nier, le jeu vidéo japonais, c'est mort. Et c'était un peu le début du renouveau.
Ouais,
quoi.
C'est vrai, c'est juste, ouais, c'est très très juste. Quand j'ai reçu, je riais, je me suis dit, j'avais l'intention de me moquer de lui, en fait, quand je l'ai mis dans la console. Et puis au final, je me suis dit, mais c'est. Enfin, effectivement, c'était assez moche, mais tout d'un coup, en déroulant le jeu, je me suis dit, putain, il se passe quelque chose, il y a un truc fou dans ce jeu, et ça ressemble à rien que je connaisse vraiment, et effectivement c'est brillantissime. On en parlera plus le jour où on fera un podcast, mais c'est vrai que chaque donjon a une particularité et il y a une ambiance,
les musiques sont absolument géniales,
effectivement, ça doit être
vraiment.
Alors oui, je suis d'accord, mais moi je vais dire quand même que moi je trouve pas qu'elles sont si géniales que ça. Mais ça c'est des questions de goût, c'est juste pour dire que Nier, il y a une sorte de consensus sur les musiques, je suis pas d'accord.
Ok, voilà. Parce que moi j'ai acheté le CD.
Alors elles sont intéressantes, elles sont très intéressantes, mais au bout d'un moment il y a une question de goût. Ouais. Les musiques de Nier peuvent ne pas plaire.
Moi, ah oui, alors je pense
pas.
Moi je les trouve géniales.
Mais il y a plein de. Nier a des milliards de qualités, bien évidemment.
D'ailleurs, avec un album, pour ceux qui aiment en tout cas, qui s'appelle Nier Echo, qui a été remixé par plein de gens autour de la planète et qui est vraiment très chouette. Ils ont fait
du dubstep et des lasers.
Bah, il y a des trucs, mais vraiment
qui partent
dans tous les styles. Hein, vraiment à partir de la base, et puis c'est assez intéressant. Ça, vraiment.
Mais par contre, j'ai dit que j'aimais pas, mais il y a une vraie volonté de faire une bonne BO.
Voilà, au moins voilà. Une BO intéressante. Et puis chanter, ce qui est pas hyper courant. Donc vraiment, grand jeu.
Je veux te dire que c'est aussi un jeu qui m'a beaucoup touché. Je trouvais malheureusement qu'il était parfois un petit peu trop bancal pour moi au niveau du gameplay. à certains moments où ce qui m'ont fait que j'ai eu du mal à tout le temps être à fond, même si j'ai adoré l'ambiance, le double discours, le level design en particulier, enfin les idées de game design, etc. Mais il y a quand même des moments où je trouvais ça un peu poussif, quand même un peu un petit peu long.
Bah, c'est inhérent à ce qu'ils ont essayé de faire en fait. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire un résumé, on a des gameplays d'énormément de jeux, et inévitablement, ben, ils ne sont pas aussi bien que dans les jeux originels. Bon, ça, je suis tout à fait d'accord, hein, effectivement. C'est aussi pourquoi je l'ai mis dans les jeux du cœur, parce que je ne pourrais pas, avec le gameplay qu'il a, je ne pourrais pas le mettre dans les jeux, vraiment le jeu de la génération, parce qu'objectivement, Dragon's Dogma est bien mieux branlé au niveau de ses mécaniques de jeu. Mais voilà, moi, il m'a énormément touché, comme vous le savez, vraiment, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a...
Très bien. Je crois qu'on a réellement fait le tour cette fois-ci.
On va aller
au coin du feu.
On va aller voir l'autre vieux.
Le vieux schnock.
Le vieux schnock.
Alors c'est parti.
Transgénérationnel pour le coup.
On a de nouveau une pause musicale.
On fait du Bieber ou bien cette fois ?
Oh, Justin Bieber.
Justin Bieber.
Et Justin Bieber, exactement.
C'est parti, un petit Bieber.
Pire en pire.
Allez. Ah, tu dis Justin Bieber, non ?
Hein ? Ah bah il joue, bah voilà, ça sera parfait. Alors du Bieber.
Je suis sûr que c'est le type de mec.
Il peut pas, il a pas l'âge.
Super relou. I just kill you, motherfucker. I'm gonna send my bodyguard to kill you at home because you just insult me, motherfucker. I'm Justin Bieber, you know who I am. Ouh.
Merci, papy.
De rien. Sur ce.
Attends. La musique avant.
Oui, j'allais dire sur ce. Ah. La musique.
Ok, merci. Tout à l'heure.
Tout à l'heure. Revoici, après ce superbe intermède musical proposé par Sandro, Justin Bieber.
Mais avec plaisir, toujours. Merci, la bonne musique sur Un Coin de Pixel, ça a toujours été notre credo.
Exactement. Donc nous allons encore aujourd'hui parler de Ultima Online, ce jeu qui m'a fait vibrer et rêver pendant plus d'une décennie. Aujourd'hui, nous
allons... Le jeu de ta vie.
Le jeu de ma vie, exactement. Aujourd'hui, on va parler de trois choses différentes. On va parler de Server War. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, le Server War ? Bref,
ça parle de lui-même.
Le Server War, nous allons parler des bardes aussi. Et nous allons parler de ce qu'on appelle des player run town, c'est-à-dire une ville qui ne fait pas partie de la map qui a été conçue par Origin, mais des gens qui ont décidé de créer une ville d'eux-mêmes au plein milieu de la campagne avec des petites maisons. Donc bref, on va y revenir. On va tout d'abord commencer par le Server War. Donc là, je vois vos yeux écarquillés.
Mais qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est le Server War ? Eh bien, à l'époque, dans Ultima Online, il y avait un truc fou. C'est que chaque jour, à 6h du matin, les serveurs tombaient pour qu'il y ait une sauvegarde du monde. Et ensuite, les serveurs repartaient une heure et demie après. Donc, tous les matins, il y avait, je me rappelle, je l'ai fait plus d'une fois, hein, toute la nuit pour jouer à ça. À peu près à 6h du matin, il y avait un petit message qui apparaissait en bas à gauche de ton écran où c'était écrit... The server are about to restart. Et c'est à ce moment-là, quand ce message apparaissait, que tu savais que tu pouvais faire n'importe quoi dans le jeu, et le jeu ne sauvait plus ce que tu faisais. Donc au final, les gens se retrouvaient à 6h du matin au cimetière, qui était le lieu de ralliement de tous les gens qui voulaient participer à cet event que l'on appelait Server War, parce que tout le monde se foutait sur la gueule dès le moment où le serveur ne sauvait plus. Donc je vous laisse imaginer la population de je sais pas, à l'époque c'était peut-être 100 personnes qui restaient jusqu'à 6h du matin juste pour aller se foutre sur la gueule au cimetière. Je me rappelle, il y avait plein de trucs qui étaient drôles, c'était Déjà, tu te préparais, tu prenais tous les règles, tu prenais toutes les meilleures armures, toutes les meilleures armes, t'en avais tellement.
Ah bah ouais, parce que tu pouvais plus les perdre.
Parce que tu pouvais plus les perdre, tu t'en foutais.
Ah mais en fait, World of Warcraft, c'est une server war qui dure indéfiniment.
Exactement. 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 Et c'est ça qui crée en fait cette espèce de comment dire, d'habitude chez les gens de se dire bah, de toute façon je peux rien du tout, alors je vais faire n'importe quoi, je vais courir dans les mobs, au pire je claque, les autres claquent aussi, mais on s'en fout, on va rien perdre. Donc à l'époque, cette histoire de server war, ce que j'adorais faire comme ça le coup, c'est que tu te promenais en ville et il y avait tout le temps un ou deux péons qui venaient vers toi et qui te demandaient Has the server war already started? Have you seen the message? Et la plupart du temps, ce qui était fun, c'était de leur dire oui, alors que c'était pas le cas. Et la plupart de ces gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient au cimetière et ils commençaient à attaquer tout le monde. Vas-y, que je te bourre le mou. Et c'est à ce moment-là que tu te jetais sur leur cadavre, tu lootais tout. T'allais te planquer un petit moment dans un coin, et au moment où tu voyais serveur to restart, tu savais que dans ton sac, t'avais looté le gars qui, lui, malheureusement, n'avait pas vu le message, mais toi, oui. Donc, ça laissait place à une immense émeute dans le cimetière. Je vous raconte, il y a eu une centaine de personnes avec des potions d'explosion qui giclaient dans tous les sens, ça hurlait. Il faudrait que je vous retrouve des screenshots où.
Ah, bah, je les mettrai sur le site si tu
veux. Il y a juste des centaines de morts dans tous les sens, des cadavres qui jonchent les allées, et au final, dès le moment où quelqu'un meurt, la personne retourne chez le healer et se dit bon bah je vais me rééquiper, je repars. Enfin bref, la plupart du temps ça durait une petite demi-heure, 45 minutes où les gens se foutaient sur la gueule. Et je me rappelle qu'il y avait des moments où c'était un petit peu trouble. On se disait mais putain, mais le server war il a déjà commencé depuis 45 minutes. Oh putain, mais il a commencé depuis une heure et demie. Mais vous êtes sûr que ça sauve plus là hein? Vous êtes sûr? Et les gens commençaient à flipper en se disant mais merde, au final je suis plus sûr. Est-ce que les serveurs vont tomber? Putain, mais est-ce que j'ai tout perdu? Oh là là, c'était le vrai drame. Mais c'était ce qu'on attendait en fait le week-end. Le week-end, les gens allaient se coucher tard.
C'était pour se détendre.
Ouais, c'était le moment d'étendre, voilà. Tu vois. Après avoir bien farmé les noobs pendant toute la journée, tu te disais, bah, tiens, à 6h, je vais aller me faire le server war, histoire de foutre sur la gueule des mecs que je peux pas piffrer. Au final, je vais en profiter pour les insulter aussi. C'est comme ça que ça se passait, c'était cool. Donc bref, server war.
Et puis
Ensuite, je vous ai dit que j'allais parler des bardes.
Oui.
Les bardes, cette classe qu'on
comme dans Bard's Tale.
Comme dans Bard's Tale, mais
le premier bard.
C'est un plan de carrière génial.
Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, vous prenez un MMO, vous prenez World of Warcraft. Est-ce que comme classe, il y a un bard dedans?
Malheureusement pas. J'aurais
malheureusement pas. C'est alcoolique un bard, donc ça serait beaucoup trop politiquement incorrect.
C'est juste. Dans Dark Age of Camelot, il y avait le ménestrel, il y avait le bard, il y avait des classes comme ça. Par contre, dans Ultima Online, le bard n'avait pas énormément d'utilité. À part juste deux. Voilà. Dès le moment où tu montais ton skill musicianship, ça te donnait accès à. Enfin, dès le moment où tu avais.
Musicianship.
Tiens, je vais monter mon skill musicianship.
Mais je sais. Mais au final. Mais au final, il y avait tellement de skills que tu te disais, je vais un petit peu tout explorer pour voir ce qu'il y a. Le fait de monter ton skill musicianship à 100 faisait qu'à chaque fois que tu utilisais un instrument de musique, tu réussissais ton skill à chaque fois. Donc, tu avais plein de petits instruments de musique, tu avais un luth, tu avais une batterie, etc. Donc, je te raconte pas, tu entendais les mecs macroter leur skill de musique dans les maisons et tu entendais juste poum 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 poum. Enfin bref, c'était horrible, une cacophonie. La plupart des gens, en plus, ils macrotaient ça à la banque. Donc, dès le moment où tu arrivais là, il y avait une cacophonie d'instruments, c'était juste horrible. Enfin bref, le fait de monter musicianship à 100 te permettait d'utiliser deux skills. Il y en avait un qui s'appelait Provocation et un autre qui s'appelait Peacemaking.
Tu m'étonnes, Provocation.
Exactement. Le skill Provocation te permettait en fait de cibler un monstre ou un NPC et de lui dire « attaque cette personne-ci ». Donc, tu avais une première cible qui te disait « je target ce monstre et j'ai envie qu'il attaque cette personne ou ce monstre-là ». Et le skill Peacemaking en fait te permettait d'interrompre les attaques d'un joueur ou d'un monstre. Donc, au final, de le garder pacifique.
Ok.
La plupart du temps, ce qui m'amusait à faire avec mon barde, un barde, d'habitude, tu l'utilisais pour faire de l'argent. Tu allais dans un donjon, tu provoquais deux dragons entre eux, tu attendais gentiment qu'ils se fritent, tu finissais avec un energy bolt, tu lootais. C'était tranquille, c'était zéro risque à peu près. Mais ce qui était drôle à faire, c'était de se promener en donjon et puis d'attaquer tous les monstres que tu voyais à l'écran, de ramener un gros train de mobs, imagine une dizaine de trolls qui te suivent, d'arriver sur un pauvre newbie qui est déjà en train de galérer contre son mob, de tourner autour de lui gentiment, de taper, soit t'avais le choix, soit tu faisais peacemaking et tu te cachais, et à ce moment-là, toutes les créatures targetaient le pauvre noob, ou alors à ce moment-là, tu disais, bon, je crois qu'il est bien pourri, c'est le moment du balance un dragon au cul, donc tu targetais le dragon, tu targetais le newbie. À ce moment-là, bon, le gars voyait que tu étais en train de l'attaquer, mais la plupart du temps, il n'avait pas trop le temps de réagir parce qu'il se prenait une grosse boule de feu dans le cul et c'est comme ça que ça se terminait. Sinon, le peacemaking, je me rappelle, je l'ai gentiment utilisé en PVP parce que il y a une certaine époque où quand on se battait, comme je vous avais dit, il y avait deux types de persos. Il y avait soit les purs mages, soit ce qu'on appelait un dexeur, en fait, un pauvre singe qui utilise un kris ou une arme de corps à corps et qui fait que taper. Okay. Et la plupart du temps, avec un de mes persos, en ayant peacemaking, ça me permettait d'interrompre le personnage quand il m'attaquait avec son épée et de le forcer à me retargeter et recliquer. Donc au final, en jouant un mage et en jouant peacemaking à côté, ça te permettait d'interrompre constamment les joueurs qui te frappaient avec des armes et en fait, de gagner un avantage sur eux qui était juste monstrueux.
Mais ça a été...
Non, ça n'a pas été patché.
Non,
c'est resté. Ce n'était pas Uber comme skill. Ça permettait juste de te mouvoir autour de l'écran et de forcer le gars à chaque fois à reprendre ta barre de vie, à redouble-cliquer sur toi et à te réattaquer. Ce qui faisait qu'il perdait ses timings pour ses combos, etc. Donc, tu vois, il y avait quand même une certaine utilité. Mais bon, la première utilité, c'est provocation, gagner de la thune, emmerder les autres, faire de la musique, tuer des noobs. Exactement.
Ouais. Et le dernier ?
Et le dernier, bon, je suis désolé, celle-ci, elle n'était pas plus drôle que ça. Mais la dernière, je vais me rattraper parce qu'il va y avoir des noobs dans tous les sens, morts comme d'habitude, bien sûr. Parce qu'il n'y a que comme ça qui sont bons.
Sinon, ils ne servent à rien.
Mais sinon, ils ne servent à rien.
Un bon noob est un noob mort.
Exactement. C'est sur les noobs et sur les autres joueurs que le meilleur loot drop.
C'est la science.
C'est pour ça qu'ils sont tous dans World of Warcraft aujourd'hui, parce qu'ils ont peur de toi.
Exactement, ils ont un traumatisme.
D'ailleurs, peut-être que dans World of Warcraft, ils se parlent, ils disent, vous vous souvenez de...
Mais jamais.
De Lord Belot.
Eux, ce qu'ils se disent, mais tu te rends compte, on m'a dit qu'il y a une époque, on pouvait te looter. Mais t'imagines, mais ces gens-là, c'est des fous, c'est des barbares. Aujourd'hui, ils sont tous pères de famille. Donc bref. La dernière petite histoire que je vais raconter, c'est une histoire qui est franchement fandard. À l'époque, dans Ultima Online, il y avait, je crois, 7 ou 8 villes qui étaient créées sur la map par Origin. Ça faisait partie, on va dire, de la map de base. Et ensuite, les joueurs, comme je vous ai dit, se réunissaient en guildes où, par exemple, tous les francophones se réunissaient ensemble et se disaient ben, « Tiens, moi, je vais mettre ma maison ici et je vais tenter de rester dans un quartier francophone. » Donc à l'époque, il y avait toute une communauté de joueurs qui avait créé, si je me rappelle, une ville qui s'appelait Deepwater, qui était une ville qui était en fait tenue par des joueurs. Il y avait des magasins, il y avait des boutiques et les gens roleplayaient ici. Et un jour, ils se sont dit « on va organiser un tournoi de PVP avec à la clé un coffre rempli d'or ». Donc, à la place de prendre part à ce tournoi PVP, qu'est-ce qu'on s'est dit avec les potes ?
On va aller directement au coffre.
On s'est dit, on va aller directement au coffre, puis on va arriver à l'improviste. Donc, on a réuni 2-3 potes, on était, je crois, une dizaine. De nouveau, tous des PK, tous rouges. On s'est dit, bon, on va d'abord envoyer un petit scout pour aller voir ce qui se passe. Notre pote y va, on regarde sur son écran, ok, ils sont en train de se fighter. Il y a plein de péons autour qui sont en train d'applaudir, en train de roleplay. Ok, on attend encore 2 minutes, on y va. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Tu marques une petite rune juste derrière la maison, comme ça les gens ne te voient pas apparaître directement. Enfin, t'es masqué par le bâtiment. Tu marques ta rune, le pote revient, on se chauffe. Ok, les mecs, vous êtes tous bien équipés, vous avez tout ce qu'il faut. Ok, les cris empoisonnés, ça va morfler, les popos, les bandages, on est parti. Ouvre la gate, on pop là, imagine 10 rouges qui apparaissent sur l'écran des mecs. Les gars, tout de suite... Ils font pas plus attention que ça parce qu'ils se disent « Ok, il y a un tournoi PVP, peut-être que c'est un event à côté.
» Super event.
Bref, on est arrivé et je vous donne en mille. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Une boucherie.
Mais une boucherie ! On est arrivé, on a tous casté ensemble Meteor Swarm.
Meteor
on est arrivé
Swarm.
Sur la zone, on a balancé Meteor Swarm et là, tout ce qu'on a entendu, c'était « Il y a environ une quinzaine de noobs qui sont morts en même temps. Plus encore les gars
combo.
Qui faisaient PVP et qui se disaient « Putain, mais il faut que je continue le combat. Il faut que je continue le combat si j'ai envie d'avoir la récompense. Il faut que je continue. Ne te laisse pas distraire par les événements extérieurs. » Enfin bref, on a buté le public. On a bien sûr buté les compétiteurs. Et on a looté le coffre. On s'est barré avec le coffre. Et on a balancé une gate, on est rentré. Je me rappelle, il y a deux ou trois potes qui étaient restés bloqués là-bas pour je ne sais quelle raison. Ils flippaient, ils m'envoyaient des messages. Ils disaient que putain, je suis cuit, je suis encore là-bas. Ils ont appelé des renforts. Il y a plein de guilds qui sont arrivés. Je crois qu'on a complètement, niqué leur event. On va tous avoir des problèmes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc bref, avec nos PK, on est rentré à la tour. On a relogué sur un perso bleu. On est revenu à la ville qui était la ville du tournoi et on a fait les petits innocents. Mais que s'est-il passé ? Oh mon Dieu ! Mais il y a eu un meurtre ici ! Mon Dieu, des gens vous ont attaqué !
Il y a des gens qui font ça, c'est immonde !
Mais oui, il y a des gens qui font ça. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui manque aujourd'hui.
Oui,
il n'y a pas une police dans ce jeu pour
démonter tout ça ? Ils ne pouvaient pas payer des pélos qui étaient bien stuffés. Puis
mais c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé par la suite. Après,
il y avait des sécu après au tournoi.
Mais c'était presque ça, il y avait des guildes qui était un petit peu roleplay, mais qui faisait quand même des PVP, qui comme j'avais dit, il y avait soit le chaos, soit order. Donc dès que les mecs choisissaient comme alignement order, ils se disaient, non, on va être la police, on va être les gentils. Donc dès le moment où il y a des méchants qui attaquent à un endroit, on va tenter de s'y rendre. Et vu qu'il n'y avait pas d'instantanéité du message dans le jeu, tu étais obligé d'envoyer un mass message sur ICQ, et tu avais tout un espèce de processus d'alarme qui se mettait en marche, mais qui prenait quand même un certain temps.
C'est vrai que j'ai l'impression de voir peut-être un avant-goût des futurs Jeux Olympiques de Sochi.
Je ne sais pas. Bon, enfin bref, voilà, c'était la petite
merci.
Histoire.
Merci papy, c'était glorieux. Merci.
De nouveau, c'est des petits souvenirs, mais si vous l'aviez vu en live...
Mais si tu retrouves des images, des choses, on pourra les transmettre à nos auditeurs via le site avec grand plaisir. Si tu nous retrouves, c'est... Des vieux screenshots.
ICQ, c'est des vieux trucs d'ICQ.
Des choses
qui nous
c'est ça, des screenshots sur parchemin. Ou...
Ouais, écoute, j'ai tenté de retrouver des vidéos, mais c'est des vidéos qui sont tournées avec Fraps à l'époque. Et au final, c'est du 5 images par seconde où t'as l'impression de voir une bande dessinée.
C'est parfait.
C'est pas mal, ça donne un côté vintage. Faut pas hésiter à transmettre.
C'est sépia, et puis tout ira bien.
Et puis voilà, ça sera très très beau.
Ouais. Donc voilà, encore plein de newbies morts, plein de gens qui pleurent. De l'argent perdu. Au final, c'est comme ça que...
Et tout ça, de la même personne qui nous a donné comme jeu coup de cœur et Journey.
C'est sûr. Ah. Mais comme t'as dit, si j'avais pas eu de bras, j'aurais été plus sympa.
C'est comme j'ai dit.
J'aurais été plus sympa.
Rédemption.
C'est Greg qui a dit.
Voilà.
Pas de bras, pas de PK.
Pas de bras, pas de PK. Exactement.
Je pense que...
Oh, quelle belle phrase. Okay.
Donc conclure, je crois.
On va conclure
là-dessus.
Ouais.
Bon, j'espère que je vous aurai quand même fait rire.
Ah oui. Mais
toujours.
Tu es notre idole.
L'idole de la méchanceté.
Ah, l'idole de la méchanceté. Tu es notre diable à nous.
La tête la prochaine fois pour me rappeler de souvenirs encore plus anciens.
Alors,
de temps immémorables.
Et puis.
Puis voilà.
Voilà.
Bon.
Je crois qu'on a dit ce qu'on avait à dire.
Sur ce, on a fait le tour.
Ouais, on a fait le tour.
On a fait le tour.
Et puis ben au mois prochain.
Au mois prochain.
Après Noël d'ailleurs, joyeux Noël.
À l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Bonne année.
À l'année prochaine.
Bonne année à
2014.
Oui, 2014.
Et je trouve que ce serait sympa
de...
que nos auditeurs nous envoient un mail pour nous faire part de leur jeu de la génération. Aussi.
Oh oui.
Ah oui.
Faisons ça. Faisons
et s'il peut faire le rationnel et le coup de cœur, tiens.
Le rationnel et le coup de cœur.
Ok, d'accord. Allons-y comme ça.
À quoi jouent les gens. Ce serait intéressant.
Roule. Exactement.
Ça marche. Avec le contact du site.
Ça
marche.
Que Sandro mettra sûrement.
Mais
sur,
il y
sur
est déjà.
Page.
Ouais, je le remettrai sur la page parce que je suis quelqu'un de sympa.
Et sur ce. Nous allons clôturer ce podcast. Je vous remercie de nous avoir écoutés, vous tous. Vous qui nous suivez chaque mois et qui vous dites « Je ne pourrai pas attendre encore un mois pour ce podcast. Il me le faut maintenant. Ces gens sont des génies. Ils sont drôles. Ils ont des choses à raconter. Ils sont pertinents. Dans un mois, messieurs, nous serons là. Nous tiendrons le micro et nous ne vous décevrons pas. Sur ce, I'm out. » Come again soon.